Bien, avec votre permission, on va lancer cette journée d'études. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Didier Moreau, je suis directeur de cette maison, l'espace Pierre Mendès France, qui vous accueille ce matin. Avant de commencer quoi que ce soit, je vais vous souhaiter une bonne année 2020 pour vos études, vos projets d'études personnelles, bien sûr, et une belle année accomplie. Alors pour ceux qui terminent avec l'accomplissement ultime et puis pour ceux qui commencent avec un beau parcours. Merci à Jérôme Grévy, Julien Lalu et Loïse Morel d'avoir permis de faire en sorte que cette journée d'études soit la plus complète possible. Je vais vous dire un mot du pourquoi, du comment vous êtes dans cette maison pour celles et ceux qui n'y ont pas encore mis les pieds. Et pourquoi un centre de culture scientifique se trouve à accueillir des profils tels que les vôtres, enseignants, enseignants-chercheurs, mais doctorants, masters, mais également ce qu'on appelle communément et facilement dans nos maisons du grand public. Cette salle, qui s'appelle Confluence, qui vient d'un écrit de Héraclite, a l'habitude depuis un peu plus de 25 ans de recevoir des conférences grand public, c'est à peu près 14 000 personnes par an, mais également des rencontres de chercheurs, de praticiens, chefs d'entreprise, représentants du monde associatif, ce qu'on appelle indûment de temps en temps la société civile. Hein, nous sommes tous partie prenante d'une société qui essaie d'être civile le plus souvent possible. Bref, des acteurs qui confrontent leur regard et leurs pratiques au regard et aux pratiques des chercheurs. Donc dans cette salle, depuis de nombreuses années, des pistes initiatrices, innovatrices ont été explorées. En 2002, ici, dans le cadre d'un dossier de la Commission européenne, il y avait eu un débat avec le vice-président de BNP Paribas. Le débat, c'était « Le digital amènera-t-il nos sociétés à jouer en permanence ?» Pour vous dire que ce dont vous allez parler aujourd'hui et demain, et quelque chose qui a été initié voici déjà une vingtaine d'années lorsque ce qu'on appelle maintenant le numérique a commencé à investir largement nos sociétés contemporaines. Alors, moi j'ai l'habitude d'essayer de montrer quel lien il peut y avoir entre vos démarches de chercheurs, vos démarches de futurs chercheurs ou d'enseignants-chercheurs, et puis les besoins qu'ont nos sociétés actuelles et très concrètement, très prosaïquement, nos territoires, de permettre de comprendre ce qui se passe dans vos labos et quel impact ça aura sur nos sociétés. Cette salle a eu régulièrement l'habitude de générer du débat, et en particulier par rapport à la question du numérique, d'essayer de trouver une voie médiane entre la technomania et puis la critique à tout va. Et c'est là où la place du chercheur et de la recherche est absolument éminente. Notre ami et président d'honneur de cette maison, Edgar Morin, a souvent l'habitude de faire appel à cette adjonction entre l'incertitude et la nécessité de s'y confronter. Et comme je vois que le mot « usage » est dans le sous-titre de cette journée d'études, ça fait partie des choses sur lesquelles nous, médiateurs de culture scientifique, on essaie en permanence de trouver quelles sont les voies et les moyens qui nous permettent d'être le plus proche possible des usages de nos publics. Donc ce qui va se passer aujourd'hui dans cette salle va bien entendu pour nous rétroagir sur nos façons de faire. Vous savez que cette maison développe régulièrement ici à Poitiers, mais également dans le reste de la région, en Nord-Nouvelle-Aquitaine, des manifestations au sein desquelles les expositions sont les supports privilégiés de diffusion de la culture scientifique. Depuis 3-4 ans, nous avons développé Escape Game et autres supports où le numérique et la question de l'usage du jeu rejoint des questions où l'éducation, l'appropriation de données scientifiques, la formation sont étroitement liés. Et c'est là où moi j'attends beaucoup de vos réflexions, et j'en finirai là pour les futures années de l'espace Mendès France. C'est de savoir, dans cette fusion qui ne dit pas son nom entre les pratiques académiques et les pratiques Alors au Québec, on appelle ça de plein air, d'éducation populaire, disait-on en France à un moment. Bref, ces pratiques domestiques et personnelles viennent fusionner, sans dire ce mot, avec les pratiques académiques telles que vous pouvez les aborder. Donc moi, j'attends beaucoup de ces réflexions, parce que ça aura des conséquences évidentes sur la manière dont les médiateurs que nous sommes peuvent produire, éditer, mettre en œuvre. Alors oui, on est entouré par deux affiches d'exposition. Nous venons juste de terminer Kéops. Je ne sais pas si vous êtes venu la voir, mais l'essentiel de la présentation de Kéops, l'essentiel des supports était numérique, 3D et multimédia. Quant à Clock, c'est une exposition que je vous recommande, surtout si vous avez des problèmes de sommeil, puisqu'on explore les questions de biochronologie et le numérique est éminemment au service de la manière dont on peut s'approprier les dernières nouvelles de la recherche. Voilà, je vais passer la parole à Jérôme. Juste vous dire une chose, là, j'arrive de 2 jours à Bordeaux, où nous sommes maintenant régulièrement, capitale régionale de cette région Nouvelle-Aquitaine. Alors j'ai appris avec surprise, parce que moi je vais aux États-Unis depuis 32 ans, que l'université de Bordeaux avait lancé la remise des diplômes de doctorants à l'américaine avec Toge et autres franfreluches. Donc je ne sais pas si vous aurez ça bientôt, mais pour vous dire que les traditions anglo-saxonnes fusionnent avec les traditions françaises. Donc Jérôme, je ne te demanderai pas ton avis là-dessus. Mais bon, voilà, donc pour vous dire que c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons pour montrer encore une fois que cette maison et l'Université de Poitiers sont étroitement liées dans leurs actions communes.
Merci, merci beaucoup Didier. Merci beaucoup à l'espace Pierre Mendès France de nous accueillir. C'est notre 3e session des humanités numériques. Alors les deux mots, s'ils sont accolés, ce n'est pas un hasard, c'est parce que le numérique a tendance à déshumaniser et nous voulons absolument conserver cette dimension d'humanité. Donc nous avions eu humanité dans le titre de notre école doctorale et dans cette formation plus précisément. Donc un grand, grand merci parce que cette collaboration est extrêmement fructueuse et porteuse pour les doctorants, pour les étudiants de master qui sont venus en nombre et qui ont dit tout leur intérêt pour cette formation et les personnes de l'extérieur. Pourquoi cette thématique et comment l'aborder ? Alors, j'ai été sensibilisé, puisque, comme beaucoup d'ici, je suis du siècle dernier, par l'impact du numérique sur les relations sociales, sur la manière dont les rapports humains se créaient et dont aussi l'activité intellectuelle évoluait. Comme nous sommes enseignants-chercheurs, en tant qu'enseignant, juste une anecdote. Il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, quand Sciences Po crée plusieurs antennes en province, il y avait eu une grande opération ordinateur pour encourager les étudiants à utiliser leurs ordinateurs pendant les cours. L'année dernière, j'enseigne toujours à Sciences Po, en plus de l'université, on m'a demandé, à titre expérimental, sans que ça soit trop dit, de faire un cours sans écran. C'est-à-dire que le numérique est parfois une fenêtre ouverte sur le monde, mais parfois il est un obstacle. Et on s'est rendu compte, quand on a fait le bilan avec les étudiants à la fin du premier semestre, que ça avait été extrêmement positif pour eux d'apprendre à ne pas sans cesse cliquer leur portable ou leur ordinateur, qu'ils avaient mieux participé, mais qu'en même temps, voilà, ça pouvait être un obstacle. Donc il y a un usage, c'est le mot qu'on a mis dans le sous-titre aujourd'hui, un usage que l'on doit maîtriser. L'homme ne doit pas être esclave de ses outils, il doit savoir les utiliser. Et d'autre part, l'autre volet, c'est pour la recherche. Pour la recherche, moi, je fais partie aussi de la génération qui a apprécié dans la recherche ce que Arlette Farge appelait le goût de l'archive, le fait d'avoir le vieux document entre les miens, de sentir la poussière, d'aller fouiller au fond des placards. Or, aujourd'hui, la numérisation risque de faire disparaître cette dimension. Mais pour autant, il faut que nous sachions en conserver tout l'attrait, nous devons comprendre ce qu'elle apporte et retrouver par d'autres biais cette part de l'humain et peut-être du matériel dans le document. Et c'est pour cette raison que, alors je le dis pour les doctorants, un de mes anciens doctorants avait travaillé sur ceci et que lorsque j'étais directeur de l'école doctorale, donc à la fin, je devais préparer cette journée. Et j'ai dit, ben, Julien, il va falloir se mettre, maintenant qu'il est passé de l'autre côté, il va falloir se mettre à organiser une formation scientifique sur le thème du jeu. Parce que, j'avoue que j'en étais pas spécialiste, mais quand en master, déjà, on avait discuté du sujet, on avait dit, tiens, l'usage de l'histoire dans le jeu était une thématique intéressante. Et puis l'usage politique du jeu, comment la classe politique a regardé avec distance, puis s'est approchée et enfin a essayé de récupérer le jeu, ça a été l'objet de sa thèse. Et tout ceci m'a amené à vraiment être persuadé que le jeu doit être non seulement un outil pédagogique, doit être aussi un outil pour la recherche, mais à condition que nous sachions nous l'approprier, le comprendre et le décortiquer. Il n'est pas un outil neutre, il est un outil qui change les rapports humains, qui change aussi les modalités de la recherche, peut-être aussi les questionnements et les éléments de réponse que l'on peut trouver. Donc voilà, je suis vraiment très content et je remercie de nouveau l'Espace Pierre Mendès France, Didier et Loïse d'avoir accueilli ce projet, Julien d'avoir accepté ce défi que je lui ai lancé et tous les participants que nous avions retenus de participer à cette réflexion dans la journée. C'est déjà trop long et donc je vais laisser la parole à Julien pour entrer dans le vif de notre sujet de ce matin.
Merci beaucoup. Donc moi, j'ai le rôle ici à la fois d'organisateur et d'introduire cette journée. Le micro est allumé. Vous m'entendez mieux ? Non, pas mieux ? Si, c'est bon ? Non, celui-là, c'est mieux ? Ok. Donc je vais essayer de faire une introduction assez rapide pour conserver l'ordre du temps. En concentrant principalement sur ce que sont ces humanités numériques, leurs enjeux, et terminer par une ouverture sur la pratique du jeu, c'est-à-dire les humanités numériques en contexte ludique. Je ne vais pas forcément, en introduction, revenir précisément sur l'historiographie des Game Studies, l'historiographie du jeu. Chaque intervention dans la journée, de manière différente, mais complémentaire, vont aborder ces notions-là. Donc moi, j'ai essayé de faire quelque chose de plus générique sur les humanités numériques. Alors tout d'abord, je voudrais remercier l'Espace Mendès France d'avoir participé à cette organisation, d'avoir prêté les lieux. Remercier les intervenants aussi, notamment les deux présidents de séance, Alexis Blanchet et Vincent Berry, qui ont gentiment accepté de venir m'aider pour ça et qui ont accepté la tâche de gardien du temps, qui n'est pas forcément facile. En journée d'études, donc je les remercie beaucoup. Alors, c'est bon ? Donc cette journée, elle s'adresse principalement aux doctorants et aux masters, c'est-à-dire aux jeunes chercheurs hein, qui, je pense, ont nécessité aujourd'hui, en contexte de la recherche, de réfléchir à ces humanités numériques, quel que soit leur sujet, quelle que soit leur discipline. D'une manière ou d'une autre, ils sont confrontés à ces humanités numériques. Sans forcément s'en rendre compte d'ailleurs, en contact de mes étudiants, systématiquement dans leur recherche, ils se mettent à faire des bases de données, par exemple. Ils passent par le traitement de texte, par du SIG, c'est-à-dire par du géoréférencement de cartes anciennes, pour mélanger l'information historique et géographique. Donc inconsciemment, par leur éducation, par finalement le monde qui les entoure, ils en viennent à utiliser ces humanités numériques dans leur recherche. Ce qui n'est pas forcément évident lorsqu'on remonte dans le temps, il y a 15, 20... 30 ans dans la recherche, notamment en sciences humaines, principalement en histoire, que je connais plutôt bien, qui était une discipline plutôt littéraire. C'était la discipline de la belle-lettre. Et on en vient aujourd'hui à mélanger cette belle lettre avec des analyses statistiques, des graphiques. Et on nous demande de plus en plus, je pense que vous connaissez le site HAL, on nous demande de plus en plus de déposer aussi l'expérimentation de la recherche, pas seulement le résultat final. Il faut aussi maintenant déposer les bases de données qui sont tout aussi intéressantes. Ce que les sciences physiques, les sciences appliquées font depuis très longtemps, en réalité. J'aimerais que cette journée soit articulée autour de la réflexion de la temporalité de la recherche. Pour une raison très simple, c'est un de mes sujets de prédilection. On remarque de plus en plus, par exemple, que le temps politique vient à coller le temps médiatique, où l'information est remplacée par l'information. Dans ce contexte d'humanité numérique, il y a deux temporalités qui s'affrontent. Celle des humanités, des sciences humaines et arts, sciences humaines et sociales, avec une temporalité plutôt longue, une réflexion qui mûrit au fur et à mesure de la recherche, surtout lorsqu'on est en sciences historiques, sciences du passé, hein, une temporalité assez longue, et qui se cumule avec cette temporalité du numérique, de l'informatique, de l'immédiateté. Assez intéressant. D'autant plus intéressant si on leur ajoute la temporalité du jeu. Vous avez sûrement vu, vous rendre compte que lorsqu'on joue, bizarrement, le temps, on a l'impression que le temps passe plus vite. Ça peut être aussi une réflexion qu'on a sur cette journée-là, cette distinction de la temporalité. Donc, pour rentrer dans le détail, je vous ai mis quelques extraits hein, sur les humanités numériques. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Hein. Tout simplement pour vous signaler que les humanités numériques désignent un ensemble de pratiques au croisement des sciences sociales et de la technologie et qui se basent sur des outils numériques pour repenser les méthodes traditionnelles de la recherche et du partage du savoir. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, par exemple avec la publication des bases de données. Ça peut être par exemple le text mining, c'est-à-dire la fouille en plein texte. Vous pouvez maintenant, grâce à des logiciels, fouiller sur une dizaine, une vingtaine, une centaine de discours politiques, par exemple, hein, pour rechercher des concordances, des mots conjoints, des tonalités dans le discours. Ça peut être aussi du data mining, c'est-à-dire la fouille en pleine donnée, en métadonnées. Toutes ces choses hein, qui deviennent des pratiques des sciences humaines de plus en plus évidentes. Pas trop perdre de temps, non, c'est bon. Alors très rapidement, un petit point historiographique. Les humanités numériques commencent avec ce personnage, Roberto Bussa, qui est un prêtre jésuite italien. D'ailleurs, les humanités numériques hein, ont principalement été développées en Italie, j'y reviendrai après. Ce personnage, qui est considéré comme le père des humanités numériques, a l'idée en 1946 de créer un logiciel pour rechercher en plein texte dans les ouvrages, enfin, les différents textes de Thomas d'Aquin. Donc créer un logiciel qui permettrait de référencer l'intégralité des données religieuses. Pour ça, il se rapproche d'un certain Thomas Watson, qui est le cofondateur d'IBM. Et en 1949, il lance le Index Thomisticus, qui est le premier index, le premier codex, qui permet une recherche en plein texte, principalement là, de textes religieux. C'est-à-dire que vous, n'importe quel mot, hein, vous lancez un mot dans cette base de données, et le logiciel vous donne finalement le nombre de récurrences, la place du mot. Par exemple, vous tapez le mot « église », le logiciel va vous dire si c'est l'église, le bâtiment, ou si c'est l'église, l'institution. Et ensuite, il va vous dire dans le texte où on peut trouver ça. Donc, c'est la première fois hein, qu'on cumule finalement cette idée du texte associé aux humanités, aux sciences humaines, avec l'informatique. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Mais ensuite, prochaine étape suivante, 1966, avec l'ouverture de la revue Computer and the Humanities, au pluriel, intéressant, les humanités, hein, dans le sens des sciences humaines, qui fait le bilan de tout ce qui sort à la fois en Amérique du Nord, en Europe occidentale et en Australie. Vous remarquerez, très concentré sur l'Occident. Suivi par le projet TEI, en 1987, projet TEI qui va être lancé en 1994. Projet TEI extrêmement important, s'il y a peut-être quelque chose à retenir, c'est peut-être ce projet-là, qui était le lancement d'une base universelle, une base de texte universelle, permettant de référencer de manière globale les définitions pour chaque thématique et chaque discipline. C'est-à-dire créer un codex général en histoire, un codex général en sociologie, un codex général en histoire de l'art, qui permettait de rechercher, quelle que soit votre nationalité, votre pays ou votre domaine de recherche, avoir finalement un codex de référence. Aujourd'hui, on appelle ça des thésaurus. Ça vous dit peut-être quelque chose. Thésaurus qui permettent à des logiciels ou à des bases de données d'avoir des référencements de définition. Donc c'est le premier grand thésaurus. Je terminerai cette définition d'humanité numérique par un ouvrage qui, je pense, devrait être lu par l'ensemble des jeunes chercheurs, masterants ou doctorants, qui est l'ouvrage de Rolando Minuti, encore un Italien, professeur d'histoire moderne à Florence, qui a écrit en 2002 « Internet et le métier d'historien ». Alors, ça concerne principalement le métier d'historien, mais c'est un ouvrage beaucoup plus large qui réfléchit sur l'évolution de la méthodologie à l'heure d'Internet, notamment de la source, de la valeur de la source. Est-ce qu'une source numérisée, est-ce qu'une source scannée a la même valeur que sa source originelle dans les archives ? Est-ce qu'un chercheur qui prend l'initiative de se déplacer en archives a plus de valeur que le chercheur qui reste chez lui, derrière son écran, à lire la source bien au chaud avec son café ? Toute une réflexion méthodologique qui, je pense, devrait être intéressante pour tout le monde. Je terminerai rapidement là-dessus, sur le lien avec le jeu. Je vous ai dit, je ne vais pas vous faire, l'économie d'une référence au Game Study, je ne vais pas vous parler de la ratologie, ludologie, ça va peut-être être fait, ni de la différence entre le game et le play. Je pense que ça va être fait, il y a une intervention sur l'ALEA et Linux aussi. Donc je ne vais pas revenir sur Wizinga, Kaiwa. Simplement pour me concentrer sur l'historiographie en France, qui a la particularité, et vous voyez, hein, de se poser plein de questions sur la nature du jeu. Est-ce que c'est une simulation ? Est-ce que c'est un art, un médium, une culture ? Voilà, on va aborder toutes ces notions-là dans les différentes interventions, qui me semblent essentielles. Et pour montrer aussi la vivacité de l'historiographie, notamment française, je vous ai mis en dernier là une liste de thèses de référence, avec la première de Laurent Trémel en 99, pour montrer la succession, hein, et finalement l'appétence de l'historiographie française pour cet attrait du jeu. Donc je terminerai simplement pour dire que aujourd'hui les chercheurs sont amenés à penser le sujet de recherche au prisme du jeu, en se demandant comment les humanités numériques étudient le jeu, mais pas seulement, hein, comment le jeu influence-t-il aussi la recherche, et c'est peut-être ce qui va nous intéresser là, quel changement de paradigme, ce qu'on appelle la gamification ou la ludicisation, selon les propos de Sébastien Janvaux, influence-t-elle le monde aujourd'hui ? C'est-à-dire comment, finalement, les traits du jeu en viennent à être injectés dans différentes parties de la société, en entreprise par exemple, hein, de plus en plus. Et finalement, est-ce que ces données-là sont mesurables ? Et je pense que toutes les interventions qui ont lieu aujourd'hui vont répondre à ces questions. Et je pense qu'on va avoir une très belle journée. Je vous remercie. Et j'appelle à la table des négociations donc Alexis Blanchet pour la présidence, Caroline Fontagnol et Jean-Noël Priot. En sachant que la journée va se dérouler toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux interventions présidées, ensuite une pause avec les questions. Okay. Donc si vous avez des questions dès la première intervention, gardez-les pour la suite. Il y aura aussi l'intervention de 11h15 qui est annulée puisque Sophie Kraber ne peut pas venir et du coup il y aura une remontée de l'intervention de Sophie Etienne et de Thierry Tainer qui remonte à 11h15. C'est bon pour tout le monde ? Est-il possible de débrancher le câble VGA ? Ouais. On va le faire.
Non, je ne vais pas avoir besoin de ça. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je remercie les organisateurs et les organisatrices, Julien, pour ce bel honneur de venir vous rejoindre et de modérer cette première partie de la journée. Je m'appelle Alexis Blanchet, je suis enseignant-chercheur au département cinéma et audiovisuel de la Sorbonne Nouvelle. Et comme vous le voyez avec mon petit carré rouge sur ma veste, je suis actuellement en grève contre la réforme des retraites et le projet de loi LPPR. Depuis lundi, on a fait une AG à l'Assemblée Générale à Paris 3 et nous avons décidé de nous mettre en grève, donc on accueille nos étudiants mais on discute un petit peu de la situation avec eux. Alors dans une stricte application de la grève, je ne devrais pas être là, mais c'est vrai qu'on a des engagements et puis j'avais aussi envie de venir à Poitiers rencontrer des collègues, hier j'en ai profité d'ailleurs pour discuter un peu de la situation et de pouvoir être là avec vous. Alors je vais essayer de bien tenir le temps pour passer la parole aux deux intervenants de cette première partie de matinée, sachant qu'on m'informait qu'on avait dans la salle des doctorantes, des doctorants, des masterantes et des masterants. Je vais plutôt ici faire quelque chose d'un petit peu méthodologique, en tout cas une sorte de méthodologie qui est pourquoi un non-historien, c'est-à-dire moi-même, se retrouve à préparer la sortie d'un bouquin d'histoire du jeu vidéo. Donc moi, la forme de jeu à laquelle je m'intéresse, c'est le jeu vidéo. Et il se trouve que, si tout se passe bien, au début du printemps prochain, vous aurez dans les bonnes librairies, j'espère ici à Poitiers, ou dans vos bibliothèques universitaires, un ouvrage qui s'intitulera French Touch et qui vous proposera une histoire du jeu vidéo en France, s'étalant des années 60 jusqu'au début des années 90. Je vous le disais, moi je ne suis pas historien, j'étais un peu formé au départ en sociologie, puis j'ai rejoint un département de cinéma et audiovisuel au début de ma thèse, au début des années de 2000. Mais il se trouve que pour travailler sur les adaptations de films de cinéma en jeux vidéo, dans un contexte où au début des années 2000, le jeu vidéo n'était pas forcément un objet qui était traité dans le cadre des thèses de doctorat, il m'a fallu développer une première partie de la thèse qui était assez historique, simplement pour recontextualiser ce lien entre cinéma et jeux vidéo et le recontextualiser d'un point de vue historique, d'histoire culturelle et d'histoire économique. Vous m'avez déjà vu intervenir ou prendre la parole ça et là, c'est très souvent autour de cette relation entre cinéma et jeux vidéo. Or, il se trouve que au début des années 2010, j'ai l'occasion, d'ailleurs grâce à des collègues québécois, et là c'est un appel du pied que je fais aux doctorantes et aux doctorants, c'est-à-dire penser dans vos années de recherche à vous dire tiens, allez, je commence à communiquer d'abord dans des événements faits pour les doctorants, et puis la deuxième année j'essaye un colloque national ou international qui a lieu en France, et puis la troisième ou la quatrième année je me lance sur un colloque international. Moi j'ai eu la possibilité de faire mon premier colloque international en 2009, tout à la fin de ma thèse, et ça a été au Québec que ça s'est fait, et ça a eu un effet assez incroyable sur la possibilité ensuite de pouvoir communiquer plus largement à l'international, et dans le cas présent de participer à des projets de publication internationale. Les Québécois qui sont très avancés sur les études de jeux vidéo, je pense à Bernard Perron, à Carl Terrien, à Dominique Arsenault, à Maud Bonenfant, sont évidemment à la jointure entre le domaine académique français, francophone, et le domaine américain. Il se trouve qu'au vers 2010, un collègue me dit « Écoute, il y a une encyclopédie du jeu vidéo qui s'écrit, Mark Wolf, un chercheur américain, la coordonne. Je m'étais engagé à faire une entrée sur les cinématiques de jeux vidéo. Vous connaissez probablement ces segments en particulier des jeux vidéo. Et je suis en train de me rendre compte que je vais finalement travailler sur tes textes et que je risque d'en faire une traduction en anglais. Enfin, en tout cas, vraiment, ce serait idiot que ce soit pas toi qui la fasse. Donc, je lui dis bah, très bien, prends contact avec Marc. Je prends contact avec Marc et Marc me dit très bien, j'attends cette entrée pour cette encyclopédie. Et j'envoie mon entrée, et puis quelques semaines plus tard, j'ai Mark Wolf qui me recontacte en me disant « Écoutez, dans cette encyclopédie, on a fait des entrées par pays, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas la France, et que dans les contributeurs, vous êtes le seul Français que j'ai sous la main, Donc, s'il vous plaît, est-ce que d'ici 3 semaines, vous pouvez m'envoyer une entrée sur la France? Alors, une entrée assez courte, hein, c'était vraiment un peu une mise en jambe. Et m'envoyer cette entrée. Alors, je négocie un petit peu de temps supplémentaire. Je regarde un petit peu ce que j'ai dans mes bibliographies. Je reprends les textes, des textes journalistiques, des articles de presse, pour essayer de constituer quelque chose qui dise quelque chose du jeu vidéo en France. L'entrée est envoyée, elle est validée par le comité éditorial, et Mark Wolf revient quelques temps plus tard en me disant « on a lu les entrées pays, et il se trouve qu'on trouve ça absolument passionnant, donc on veut faire un bouquin vraiment qui va être consacré à la question des pays dans le domaine du jeu vidéo. » Et donc ça donne la couverture que vous avez en bas à gauche de ma diapositive, « Video Games Around the World », où plus d'une trentaine de collaborateurs vont faire des entrées pays par pays sur la question du jeu vidéo. Et il se trouve qu'au même moment, l'éditeur avec lequel j'ai édité mon premier ouvrage, qui s'intitule « Les pixels à Hollywood », revient vers moi, on est vers 2011-2012, et me dit « écoute, on aimerait bien refaire un bouquin ensemble, et on aurait une idée à te proposer, ce serait de faire l'histoire du jeu vidéo français ». Alors je leur dis, écoutez, c'est marrant, parce qu'au moment où vous me proposez ça, moi j'ai commencé à avoir des réflexions, à écrire des choses, et le constat, c'est qu'en fait, il y a toute une série de points aveugles dans cette histoire de jeux vidéo en France. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et c'est ce dont je me rends compte en tentant d'écrire d'abord l'entrée pour l'encyclopédie, puis ma participation un peu plus développée que je prépare à ce moment-là pour Video Games Around the World. Donc voilà, finalement il y a quelque chose d'un coup qui devient attirant en se disant mais il y a des choses à dire, il y a des choses à découvrir, il y a une enquête historique à mener pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors il va y avoir une première négociation avec l'éditeur, c'est que je leur dis moi je pense pas que c'est une histoire du jeu vidéo français qu'il faille faire, c'est plutôt une histoire du jeu vidéo en France, pour essayer de comprendre comment cet objet dont l'historiographie américaine nous dit que c'est un objet qui est fondé dans les laboratoires américains, dont l'industrie est liée à une compagnie Atari au début des années 70 aux États-Unis. Et donc, je comprends assez rapidement qu'on va probablement être sur des questions d'importation de ces objets-là et que c'est peut-être plus intéressant de partir du côté de ces pratiques, des pratiques culturelles, celles du jeu vidéo, comment elles arrivent sur le territoire français et comment elles vont créer d'abord un secteur et puis progressivement quelque chose qu'on va pouvoir qualifier d'une industrie. D'où cette nécessité à un moment de m'improviser, historien. Évidemment, les travaux de Colin Cid, les travaux de Julien sont lancés à ce moment-là, mais force est de constater que du côté des départements d'histoire, probablement qu'il y a un manque de noblesse de l'objet jeu vidéo, d'une certaine façon. Il y a des habitudes universitaires où l'histoire, c'est l'histoire, puis il faut quand même qu'il y ait quelques années qui se soient passées. Et une distance historique nécessaire à l'analyse aussi. Et puis, il y a probablement une question, on parlait des archives tout à l'heure, c'est curieusement un domaine si jeune qu'il ne fait pas d'archives et qui a une logique un petit peu, ou assez peu d'archives, une logique presque d'oubli immédiat, évidemment, dans des configurations où des entreprises se montent, sont rachetées, sont renvoyées sur des nouveaux projets, mettent tout à la benne, etc., etc. Et puis, il y a un enjeu un peu plus large, qui est celui des local video game histories, c'est-à-dire des chercheurs. Je pense à Jaroslav Slech en République tchèque, je pense à des chercheurs polonais, des chercheurs australiens, qui commencent à se poser la question de l'histoire du jeu vidéo sur leur territoire national, mais évidemment en relation avec des marchés internationaux. Ça crée au début des années 2010 les local video game histories, et donc finalement on a là aussi un champ dans lequel on peut insérer ce projet de recherche. Alors cette relation de travail avec l'éditeur, elle va aussi aboutir à une rencontre, celle de mon co-auteur Guillaume Montagnon, puisque cet ouvrage on va l'écrire à quatre mains et on va le déployer de 2012 jusqu'à aujourd'hui, donc sur 8 ans et demi quasiment. Avec Guillaume, qui est un chercheur indépendant, diplômé en intelligence économique, en master d'intelligence économique, et qui est quelqu'un qui a vraiment le goût de la recherche en centre d'archives, et avec qui on va se partager la tâche pour, d'une part, aller chercher des sources premières, mais également mener une campagne d'entretien. À l'issue du bouquin, c'est plus de 70 entretiens qu'on a menés, plus de très nombreux échanges. Il se trouve que la question du numérique est assez importante dans le cadre de cette recherche parce que il s'avère que, par exemple, sur les expérimentations, et il y en a eu, de jeux vidéo dans les laboratoires français, on se retrouve avec tout un personnel qui sont des anciens mathématiciens, des anciens informaticiens, des gens qui s'intéressent par exemple très tôt à l'intelligence artificielle. Et donc c'est des gens qui aujourd'hui ont des âges qui s'étalent entre 75 et 93 ans. Le plus vieil entretenu avec lequel j'ai fait un entretien historique, Paul Brafort, avait 93 ans le jour de l'entretien. Il est décédé il y a 2 ans. Ce sont des gens qui restent encore tout à fait connectés. Donc ça, c'est une sorte de plaisir, c'est-à-dire de travailler sur des données, de trouver un nom, de se dire, tiens, mais cette personne a des choses à me raconter, de chercher sur Internet un mail, d'en trouver un, de l'envoyer et d'avoir une réponse dans l'heure parce que ces gens-là sont constamment connectés et donc répondent constamment. Source première, source secondaire, beaucoup de travail sur la presse, évidemment, presse professionnelle, presse foraine par exemple, ça c'est une intuition de Guillaume en se disant tiens mais il faudrait peut-être aller voir du côté de la presse foraine, et évidemment c'est en fait le premier lieu où on va avoir une apparition du syntagme jeu vidéo par exemple en France, avec une presse qui s'adresse à des professionnels qui exploitent des machines de jeu, c'est tout le secteur qu'on a l'habitude d'appeler l'arcade, on se rend compte qu'en fait il y a un nom qui existe dans les années 70, ça s'appelle l'automatique de divertissement, et c'est un secteur qui va exploiter les premières machines de jeu. Alors pour conclure et laisser la parole aux deux interventions qui suivent, évidemment, je l'ai dit, ce n'est pas une histoire du jeu vidéo français, c'est une histoire du jeu vidéo en France, et il n'est pas question de tomber dans les biais d'une histoire des grands hommes ou des grandes femmes du jeu vidéo, une histoire du génie national dans le secteur du jeu vidéo, mais évidemment, et on le comprend très rapidement, c'est une histoire qui se pense dans une relation quasi immédiate avec les autres territoires. Et je vous donne cette citation d'une interview d'Achille Membe qui dit la chose suivante et qui a vraiment été, on l'a même mis en incipit de l'ouvrage, qui a vraiment été une sorte de guide. L'histoire nationale ne veut rien dire, il n'y a d'histoire que dans la circulation des mondes, dans la relation avec autrui. C'est l'autre, le lointain, qui m'octroie mon identité. Une société qui refuse de se voir donner son identité par l'autre est une société profondément malade, agitée par toutes sortes de troubles. Évidemment, cette phrase-là, elle fait écho à cette recherche. On a des relations, par exemple, entre des programmes conçus au Canada ou aux États-Unis et des applications en France. On a un marché avec des machines qui sont fabriquées aux États-Unis, en Asie du Sud-Est et qui sont importées en France. Et on a même une expression, French Touch. L'ouvrage s'appellera, lui, French Touch. Mais évidemment, il y a cette expression de French Touch qui va être une étiquette reprise par les Britanniques et appliquée à la production française au début des années 90. Alors, c'est un ouvrage, et j'en conclus sur ces questions-là, qui permettra, par exemple, de comprendre, je vous l'ai dit, qu'il y a eu des expérimentations. On a dénombré une huitaine, pour l'instant, d'expérimentations dans les laboratoires français entre les années 60 et la fin des années 70. On se rend compte, et on peut dater la fixation du terme jeu vidéo pour l'instant, en l'état des connaissances, à juin 1975, dans la presse foraine. On a tout un chapitre sur l'automatique de divertissement, sur les premières consoles de jeux vidéo, et évidemment sur la micro-informatique française, avec un secteur qui commence à se déployer à partir de 1983. C'est une histoire culturelle, une histoire économique. C'est aussi, et ça c'est assez étonnant, c'est aussi un peu une histoire sociale. Par exemple, dans le cas d'entretiens qui ont été menés avec des responsables d'ateliers de fabrication de machines de jeu, où on se rend compte que ce sont des ateliers qui sont essentiellement occupés, animés par des ouvrières qui s'occupent du câblage et de la création de ces machines-là, et dont on comprend au début des années 80, au moment où la crise économique arrive et où on ferme les ateliers en France pour aller les rouvrir, par exemple en Irlande, où le coût du travail est moins cher, que là aussi il y a une dimension d'histoire sociale qui peut tout à fait être déployée, qu'on aborde dans un ouvrage qui se veut assez large et dresser un panorama, mais qui appelle bien évidemment toute une série de nouvelles recherches. Je vous remercie infiniment. Je vais donc passer la parole tout de suite à Caroline Fontagnol, qui est doctorante au Forelis à l'université de Poitiers. Vous allez nous parler, Caroline, de l'influence du jeu dans l'analyse des manifestations linguistiques, de l'émotion, le cas du commentaire sportif télévisuel en direct du rugby. Je vous passe le micro.
déjà là-dessus.
Oui, il faut le jusqu'à vous. Merci.
Ça fonctionne pas. Bonjour à tous. Alors, en effet, je vais vous présenter aujourd'hui cette communication qui s'intitule « L'influence du jeu dans l'analyse des manifestations linguistiques de l'émotion ». Je tiens d'abord à remercier les membres du comité scientifique de m'offrir l'opportunité de communiquer à cette journée d'études. La question de l'influence du jeu dans la démarche de recherche est un thème central dans ma thèse. Il est au centre de ma recherche puisque je m'intéresse au langage et notamment à la manière dont le jeu est dit, dont l'action est commentée dans le commentaire sportif de rugby. Je m'inscris dans cette journée d'études en prenant la problématique de l'appel à communication au sens strict. Comment les actions de jeu dans un match de rugby influencent-elles le discours et donc mon domaine de recherche ? Excusez-moi, je reprends un peu mon souffle. Donc, de nombreux chercheurs issus de domaines de recherche variés ont questionné la notion du jeu et son impact dans la constitution de nos sociétés et de l'organisation de l'espace social. On a vu, par exemple, à travers les travaux de Huizinga ou de Roger Calois, comment penser la fonction sociale du jeu, sa signification en termes de phénomène culturel, ou même sa fonction créatrice de culture et son rapport au sacré. Tous ces éléments et le symbolisme qui entoure la notion de jeu m'intéressent et nourrissent la réflexion de mon travail de thèse qui porte sur la transmission de l'émotion dans le commentaire sportif. Si, de manière générale, le jeu, en tant qu'activité ludique, délimite un espace social spécifique, le jeu du rugby délimite, dans mon cas, l'espace de mon corpus. Alors, comme je viens de l'évoquer, ma thèse porte sur la question de l'émotion dans le commentaire sportif. Elle est dirigée par Sylvie Anotte du laboratoire Forelis et Catherine Maton du laboratoire Claire Sab à Bordeaux. Laboratoire Forelis à Poitiers, je ne présente plus. L'intérêt de mon sujet, il est en partie lié au fait que depuis la fin des années 30, le sport il a connu un véritable essor sur le petit écran, au point que certaines rencontres sportives, comme les Coupes du Monde de football ou de cricket, ont totalisé une audience de plusieurs centaines de millions de téléspectateurs. Parmi ces sports-spectacles, on observe depuis la Coupe du Monde 2007 de rugby un intérêt grandissant pour ce sport. La Coupe du Monde 2015 de rugby, par exemple, est présentée comme l'une des compétitions les plus regardées et les plus partagés sur les réseaux sociaux, avec au total une audience d'1 milliard de téléspectateurs et 6,5 millions de mentions sur les réseaux. S'intéresser aux discours émis dans le cadre du commentaire sportif en direct est donc un moyen de comprendre et d'analyser de nouveaux phénomènes de société. Sur la question des manifestations linguistiques de l'émotion, cette étude elle s'inscrit dans la continuité des recherches menées d'une part sur les genres de discours oraux et d'autre part sur l'expression linguistique et prosodique des émotions, affects et attitudes. Alors, pour vous présenter un petit peu mon objet d'étude, donc le commentaire sportif y présente beaucoup de spécificités linguistiques dont l'hétérogénéité des phénomènes est le plus souvent liée au type de sport commenté. On peut faire ici référence à une contrainte de contenu, donc le discours va varier en fonction de la nature du sport ou bien même du déroulement des actions. Elle est également liée à une contrainte de médias, donc ici ce sera le caractère télévisuel en direct. Et le commentaire télévisuel pose la question, par exemple, de l'iconicité de la parole. On a vu à travers les travaux de Maton et Boulakia, ou tout du moins des ajustements du discours aux images. Du point de vue syntaxique, il présente une forte proportion de phrases averbales, des énoncés spécifiques qui semblent s'adapter aux périodes de jeu. Et du point de vue prosodique, on a observé, d'ailleurs assez récemment, des patrons prosodiques qui lui sont propres. Concernant les manifestations linguistiques de l'émotion, de nombreuses études s'accordent sur le fait que l'excitation semble être un phénomène caractéristique du genre du commentaire sportif en direct. L'excitation est définie selon le CNRTL comme un état d'activité anormalement intense des fonctions psychiques tendant à se manifester par une grande exubérance des gestes et de la parole. Donc là, voilà. Dans leur étude prosodique sur le commentaire sportif de course hippique, Trouvin et Barry ont mis en évidence trois formes d'excitation qui, associées à une polarité négative ou positive, permettent d'observer différents types d'émotions. L'excitation positive correspond à la joie, l'excitation négative correspond à la colère ou à l'énervement, et une troisième forme d'excitation qui s'apparente quant à elle à une forme de suspense parcourt l'ensemble du commentaire. Toutefois, mener une analyse sur le commentaire de course hippique d'une durée comprise, dans le cas de cette étude, entre 79 et 145 secondes, ne donne pas lieu aux mêmes enjeux que de mener une analyse de l'émotion sur un match d'une durée moyenne d'1h30, comme c'est le cas au rugby. La question que je me suis posée est donc comment adapter l'analyse de l'émotion à un type de sport spécifique et comment segmenter le flux de paroles sans pour autant dénaturer mon objet de recherche. Pour ce faire, je suis donc partie du constat préalable qu'il existe un lien très fort, voire même un dialogue voix-image, constitutif d'une cohérence discursive dans le commentaire sportif. La construction de la cohérence discursive, elle est particulière en cela qu'elle repose sur deux médiums. Donc là, je vous ai mis, c'est vraiment à titre d'exemple, on voit par exemple sur l'image l'arbitre qui lève le bras pour signaler une pénalité et le commentateur répond « oui, attention, il y a pénalité ». Ce « oui », en fait, il suit justement le geste du commentateur, donc il y a vraiment un dialogue avec les images. Dans une communication précédente, je me suis également intéressée à la question de la construction de la référence dans l'utilisation des pronoms « il » et « on » par exemple. « On » qui va être un pronom aux multiples facettes puisqu'il peut référer soit au commentateur, on vous l'a dit messieurs, dames, ou alors au commentateur également et aux téléspectateurs. On le voit, ils sont oxy, c'est français, ça arrive régulièrement dans les matchs de la Coupe du Monde. Ou bien carrément 11, on fait référence aux commentateurs, aux téléspectateurs et aux joueurs de l'équipe de France, dans le cas par exemple des énoncés comme « on a gagné ». Donc à l'issue de cette communication, j'ai pu mettre en évidence la nécessité d'intégrer une approche multimodale dans l'analyse de ce type d'interaction spécifique. Néanmoins, avant d'entreprendre une telle analyse, il a fallu mettre en place des moyens d'identifier et de situer des séquences au fort potentiel émotionnel. Donc le premier moyen que je vais vous présenter, c'est la mise en place d'un test de perception qui a valeur de pré-test puisque j'envisage de le reconduire très prochainement après révision du protocole de départ. Ce test de perception, il était ciblé sur des tâches de caractérisation de l'émotion. Il avait pour objectif de tester des outils de mesure de l'émotion que j'ai emprunté au domaine de la psychologie et adapté à une étude en linguistique. Donc la première étape, c'était de sélectionner des stimuli parmi ce vaste corpus donc, qui est constitué de l'ensemble des matchs de la Coupe du Monde 2015 au départ. À partir d'une revue de presse constituée d'articles issus de sites spécialisés comme l'Équipe ou Rugbyrama, spécialisés dans le sport, j'ai d'abord sélectionné des matchs dont l'enjeu de la rencontre et le sémantisme des qualificatifs donnés aux rencontres dans la presse écrite étaient particulièrement subjectifs et intenses. J'ai donc surveillé les titres évocateurs, construit à partir de noms et des adjectifs subjectifs tels que domination, humiliation, incroyable, fantastique, autrement dit des titres dont le sémantisme était caractérisé par une valence positive ou négative et une intensité forte. Les matchs retenus pour ce test ont été les suivants, Australie-Nouvelle-Zélande, France-Nouvelle-Zélande et Angleterre-Australie. Alors tous ces matchs ont été choisis parce qu'ils avaient un fort enjeu ou alors que l'équipe de France était impliquée. Australie-Nouvelle-Zélande, c'est le match de finale de la Coupe du Monde, donc il était très très attendu. France-Nouvelle-Zélande, c'est l'élimination de la France en quart de finale, donc également un fort potentiel émotionnel. Et puis Angleterre-Australie, parce que c'était un match de poule, mais l'Angleterre a été éliminée, et c'était une très grande réception, puisque cette Coupe du Monde avait lieu justement en Angleterre. Donc par la suite, et en vue de tenir compte de l'impact des images sur le jeu, de jeu sur les manifestations linguistiques de l'émotion, j'ai pris appui sur les minutes de jeu, donc ça c'est le commentaire en ligne, en quasi-direct de matchs sportifs que vous pouvez retrouver sur Internet, et ça m'a permis de repérer des actions proéminentes dans le match. J'ai ainsi élaboré une préclassification des extraits en fonction de 5 types d'actions. Alors, ce sont des classes qui sont volontairement larges, puisque bon, il y a une très grande hétérogénéité et dans le traitement des actions, dans le commentaire des actions. Donc les actions décisives, que j'ai définies comme des actions qui aboutissent à un essai, voilà, par l'un des joueurs. Des actions collectives, donc c'est des actions qui sont menées conjointement et qui permettent de gagner du terrain vers la zone d'en-but adverse. Des actions transformation, donc après un essai, on peut obtenir des points supplémentaires en réussissant grâce à un coup de pied à faire passer le ballon entre les deux poteaux. Une action manquée, donc là c'est une action qui peut être par exemple contrée, une faute, un en avant, des occasions d'avancer qui ne sont pas saisies, qui peuvent être irritantes pour les commentateurs. Et puis j'ai ajouté un groupe contrôle, donc le groupe des actions neutres, enfin commentaires neutres. C'est un commentaire qui porte sur une anecdote, une action passée qui est hors direct. Pour chaque catégorie, j'ai extrait 5 stimuli dans les 3 matchs, une durée variant de 10 à 20 secondes. Alors, afin de mesurer l'émotion perçue dans les stimuli, j'ai proposé aux participants de caractériser l'émotion à l'aide de 2 outils. Donc le premier outil, c'est le SAM, c'est le Self Mannequin Assessment, développé par Bradley et Lang en 1994. C'est un outil qui est très très utilisé en psychologie, notamment sur les études sur l'émotion. Et il permet aux participants d'attribuer une valeur émotionnelle à un stimulus en fonction de différentes mesures. Dans cette étude, l'émotion elle est caractérisée en fonction des mesures de la valence et de l'intensité. Donc cet outil non-verbal y présente l'avantage de pouvoir caractériser l'émotion sans faire appel à une étiquette. Il permet donc de ne pas influencer la perception du participant. Sur les figures projetées sur le diaporama, on observe donc les étiquettes. Donc la première étiquette renvoie à la valence, donc ce sont des bonhommes du plus ou moins souriant. Et puis l'intensité représentée par des bonhommes plus ou moins grands. Le second outil, donc, c'est un outil qui est verbal, à l'inverse du premier, et qui est également très utilisé dans les études en psychologie. C'est le Brief Mood Introspection Scale, développé initialement par Meyer et Gashk, et traduit en français par Diedenthal et Dahl. Donc là, celui-ci, il est construit à partir de 16 adjectifs émotionnels auxquels sont associées 4 valeurs allant de pas du tout à tout à fait. Parmi ces 16 adjectifs émotionnels, on peut déjà observer des redondances, par exemple, entre les adjectifs dynamique, vif, excité, bon, des choses, ça peut être un petit peu difficile pour les participants au début de les différencier. On verra ce que ça donne dans les résultats. Alors là, c'est un peu rigolo. J'ai seulement 14 participants qui ont accepté de participer à mon expérience. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est un pré-test et qu'il a vocation à être renouvelé. Donc, parmi les 14 participants, la moyenne d'âge est de 25 ans et tous sont locuteurs du français. La passation, elle s'est déroulée dans un box spécifique aux expérimentations en laboratoire. On nous a prêté gentiment dans les locaux de la MSHS un box, donc qui sont à la base destinés aux psychos. Et le déroulement du test, il s'est fait en 2 parties. Donc, dans un premier temps, les stimuli ont été présentés et l'émotion à noter à partir du SAM et puis après à partir du BMIS. Les stimuli étaient présentés aléatoirement et la consigne donnée était de répondre le plus instinctivement possible. Les résultats. Je vais un peu vite. Désolée. Les résultats du SAM. Alors, sur les précieux conseils de Philippe Carré du laboratoire XLIM, nous avons opté pour une représentation en nuages de points que vous avez là. Je ne sais pas si c'est... Ça va, c'est assez gros. Chaque point représente donc un individu et cette répartition se fait en fonction des réponses obtenues aux mesures de la valence et de l'intensité pour chaque extrait. L'axe horizontal correspond à celui de l'intensité et il s'oppose à l'axe vertical qui correspond à celui de la valence. Bien que l'on puisse observer une certaine dispersion dans les résultats, 3 groupes émergent en accord avec la préclassification opérée en type d'action. Il s'agit du groupe des AD, qui est représenté en haut à droite de la figure et mis en évidence par un rond noir au trait épais. Et ce groupe est caractérisé notamment par une intensité forte et une valence positive. Le groupe contrôle, donc du commentaire neutre, est représenté au centre, à gauche, et mis en évidence par un trait noir en pointillé. Ce groupe, il est caractérisé par une intensité basse à moyenne et une valence moyenne. Donc, c'était à peu près ce qui était attendu de lui. Et ainsi que le groupe donc, des actions manquées, qui est représenté en bas à droite de la figure et mis en évidence par un triangle. Ce groupe, il est caractérisé par une intensité plutôt forte et une valence négative. Donc, la dispersion observée dans les résultats, elle laisse penser que l'association des 2 mesures, valence-intensité, n'est pas forcément la plus adéquate pour notre étude et qu'une 3e mesure pourrait être nécessaire afin de distinguer le groupe des actions collectives et des actions transformation. Ensuite, concernant les résultats du BMIS, donc, Contrairement aux résultats obtenus avec le SAM, le grand nombre de mesures a rendu difficile la phase d'exploration des données. Afin de visualiser l'information principale obtenue avec le BMIS, nous avons donc mis en place une analyse en composantes principales qui a pour objectif de condenser l'information en fonction de d'un certain nombre d'axes qui se veulent représentatifs des tendances observables dans le corpus. Et là, surprise, on a les mêmes groupes qui émergent, donc le groupe des actions décisives, qui là, cette fois, va être caractérisé par les adjectifs dynamiques, énergiques, excités, vifs, puis pour la balance, heureux et content. Le groupe du commentaire neutre, donc celui-ci est caractérisé par l'adjectif calme, et le groupe des actions manquées est, lui, caractérisé par les adjectifs nerveux et agacés. Donc le test du BMIS y permet de mettre en évidence que les 16 adjectifs ne sont pas tous pertinents pour la description de l'émotion, puisque en effet on observe une certaine redondance sémantique. Par exemple, le groupe des AD, dynamique, vif, énergique, excité. Je pense que pour le prochain test, on ne conservera qu'un seul adjectif. Voilà. Donc pour conclure sur ce premier test, l'objectif de la démarche, en fait, c'était d'une part de ne pas influencer les participants avec des étiquettes émotionnelles, d'autre part de ne pas nommer moi-même les émotions qui caractérisent les stimuli. Et à l'issue des analyses statistiques, on a observé une convergence dans les résultats des deux tests, puisque pour chaque test, les trois groupes AD, CN et AM émergent en accord avec la préclassification. Donc si l'on met de côté le groupe contrôle, les extraits porteurs d'une émotion remarquable sont caractérisés par les actions de type essai, pour les AD, et de type faute ou en avant pour les actions manquées. Donc, on passe à une deuxième étude. Donc là, cette fois, j'ai varié un petit peu. Je vous présente ici une analyse, les résultats d'une analyse lexicométrique. Donc, suite à la présentation des précédents travaux, notamment la présentation du test de perception, on m'a très justement reproché de mener les analyses sur des matchs issus de la même Coupe du Monde, et donc de poursuivre l'analyse linguistique sur le discours qui est proféré par les mêmes locuteurs. Cela comporte le risque de baser l'analyse sur le repérage de marqueurs qui serait le fruit donc d'un idiolecte particulier. J'ai constitué donc un nouveau corpus de travail à partir du commentaire sportif de deux Coupes du Monde, cette fois-ci, afin de diversifier les voies en dialogue. Donc l'analyse lexicométrique, elle porte sur la transcription orthographique du commentaire des rencontres France-Argentine et Japon-Fidji pour la Coupe du Monde 2007 et les rencontres Angleterre-Australie-France-Canada pour la Coupe du Monde 2015. Les commentateurs en 2007, c'était Thierry Gilardi, donc le journaliste, Thierry Lacroix, le consultant, ainsi que Fabrice Landreau, l'homme de terrain qui intervient occasionnellement pour donner des informations. En 2015, les commentateurs sont Christian Jean-Pierre, Bernard Laporte et Christian Califano, qui tient le rôle d'homme de terrain. Alors, afin de varier les plaisirs et d'orienter mes futures analyses multimodales vers les actions qui sont le plus susceptibles d'être commentées, j'ai commencé par envisager le texte indépendamment de son contexte d'énonciation. Et j'ai voulu observer les tendances qui émergent en termes de fréquence des items lexicaux. Donc j'ai utilisé l'outil Anatext, qui est un outil en ligne qui est basé sur l'étiqueteur Tritagger. Et cet outil propose différentes fonctionnalités. Il peut être intéressant pour toute recherche en linguistique. Par exemple, il permet d'extraire le vocabulaire spécifique, d'extraire le vocabulaire et la catégorisation par nom, verbe, adjectif, adverbe. Également la recherche de segments répétés. Donc, afin de faciliter la lecture de la grande quantité de données que j'ai obtenues, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser seulement, je sais, ça peut paraître regrettable, mais peut-être dans une autre communication, on pourra tout regarder, les 25 items lexicaux les plus fréquents dans la transcription orthographique des matchs que je viens de vous présenter. Alors, déjà, le premier constat que nous faisons à la lecture des données, c'est que plusieurs mots parmi les plus fréquents sont similaires pour chaque match. La variable liée aux spécificités d'un idiolecte étant contrôlée, nous observons déjà que le discours du commentaire sportif est le fruit d'une tradition qui s'attache à la description de certains éléments spécifiques. Je vous propose donc une classification de ces éléments. Donc sans surprise, le verbe « aller », qui est le verbe de déplacement par excellence, arrive en haut du classement avec un minimum, au minimum 189 occurrences pour le match Japon-Fidji. Sur l'ensemble des occurrences, on observe essentiellement un emploi au présent de l'indicatif, à la troisième personne du singulier, à la troisième personne du pluriel. Au présent de l'indicatif, l'emploi massif du verbe aller permet de décrire les actions de jeu et donc de mettre à jour l'information transmise aux téléspectateurs. L'emploi de aller à l'impératif est également intéressant, puisqu'il occupe plusieurs fonctions primordiales, telles que encourager les joueurs d'une équipe, donner de l'impulsion aux commentaires, signaler des changements de plan proposés par le cadreur. L'emploi varié de aller à l'impératif, en somme, rythme le commentaire et participe à la construction de l'émotion sportive, notamment lorsque le segment est répété de nombreuses fois. On observe également l'utilisation de verbes qui, dans le cadre du commentaire sportif, prennent une valeur spécifique en lien avec la nature du jeu lui-même. C'est le cas, par exemple, des verbes « avancer », puisque l'un des objectifs au rugby, c'est d'avancer vers la zone d'en-but adverse. « Sortir », en général, il fait référence au ballon ou au joueur. « Rentrer », »,« revenir », »,« marquer ». Ces verbes sont fréquemment employés car ils permettent de commenter des actions très courantes. Il n'est donc pas surprenant de les voir apparaître ici avec une telle fréquence. Pour finir sur les verbes, on remarque également l'emploi récurrent du verbe falloir, que j'ai trouvé intéressant puisqu'il permet aux commentateurs en fait, de mettre en évidence ce qui fait défaut dans le match. Cette forme, elle est généralement employée dans le cadre d'un conseil, il faut lâcher le ballon, d'un retour réflexif sur une action qui vient de se dérouler, allez, il va falloir qu'ils reconstruisent avec leur avant ou jouer côté fermé, bon évidemment, il faut s'y connaître pour comprendre. Selon moi, l'emploi fréquent du verbe « falloir » est un moyen de construire une projection mutuelle du jeu. Le commentateur donne son avis et conseille les joueurs, qui pourtant ne l'entendent pas. Les conseils sont donc dirigés vers les téléspectateurs, qui sont ainsi amenés à partager un regard critique sur le déroulement du jeu. Sans surprise non plus, on constate que le lexique employé est spécialisé. On retrouve ainsi des items lexicaux renvoyant aux jeux de balle de manière générale, comme jeu, jouer, ballon, balle, marqué, ligne, point. Également des items lexicaux qui sont en moins grande proportion en lien avec des actions de jeu propres au rugby. On retrouve ici par exemple les items essai et en avant. Donc c'est cela qui nous intéresse dans notre investigation des formes des actions les plus commentées. Pour finir, parmi les éléments qui sont apparus comme communs aux différents matchs, on observe l'utilisation fréquente des adjectifs « bon » et « beau » et également l'item « attention » qui a valeur d'interjection et qui permet d'alerter indirectement les joueurs et plus directement les téléspectateurs sur l'importance d'une action en train de se réaliser. Donc, on remarque effectivement donc, à travers le lexique et à travers cette analyse lexicométrique, l'influence du jeu donc, sur mon domaine de recherche, c'est clair. Mais alors, quel est l'apport pour l'étude de l'émotion? Les pistes de l'analyse lexicométrique. Ce qui m'a intéressé là, dans ces résultats, donc, outre voilà, le fait de pouvoir montrer l'existence d'un lexique spécialisé, c'est ces items lexicaux qui laissent percevoir des traces de la subjectivité. Donc, par exemple, dans le fait de donner des conseils avec l'utilisation du verbe « falloir », ou bien encore cet encouragement qui n'a de cesse, « allez, allez, allez », et même « attention ». Voilà. Donc, dans ce dialogue, avec les images, ces traces de la subjectivité me donnent des indices, des voies pour orienter mes recherches vers ces moments-là qui ont potentiellement des choses à m'apporter sur l'étude de l'émotion. Également, ce qui est intéressant, c'est la proéminence de certaines actions, puisqu'il y a des actions qui sont systématiquement commentées, comme les essais, les fautes et les en avant, alors que d'autres ne le sont jamais. Effectivement, par exemple, transformation n'apparaît absolument pas, ce qui est assez étonnant, puisque ça permet quand même de gagner des points supplémentaires, et donc c'est un enjeu sur l'issue finale du match. Donc là, on peut l'expliquer éventuellement, parce que... c'est une supposition, une hypothèse. La variation du commentaire peut varier. Enfin, le commentaire peut varier en fonction du type d'action. Donc, par exemple, sur un essai, qui est en général une phase de jeu très très rapide, on va s'exclamer plusieurs. On peut même exclamer plusieurs fois le mot essai. Je vais vous faire écouter un petit extrait. Ah. Donc vous allez voir qu'effectivement, ça peut être la nature de l'action qui influence le commentaire. Oh là. Je fais OK.
Il va y aller.
c'était fini. Alors attends. Donc voilà, il y a toute cette excitation qui peut aussi expliquer cette fréquence en fait du terme essai, alors que par exemple sur une phase de transformation, il y a une grande part accordée au silence. On laisse le joueur se mettre en place pour faire son coup de pied. Et finalement, la transformation n'est pas souvent nommée. Le commentateur, ça c'est les résultats d'une autre étude que j'avais présentée, se contente de dire ça passe ou ça passe pas, voilà, entre les poteaux. Donc cela me mène à ma conclusion. Donc la multiplication des outils, elle permet de questionner le corpus de manière différente, elle offre aux chercheurs de nouvelles perspectives, mais pour ce qui est de la question de l'influence du jeu, le croisement des résultats du test de perception et de l'analyse lexicographique sont intéressants à mettre en regard. En effet, le test de perception met en évidence des groupes, donc les actions décisives et les actions manquées, qui sont caractérisées par des actions systématiquement commentées, nommées dans le commentaire. Ça, j'ai trouvé déjà, ça pouvait me donner des... m'orienter. On peut dès lors se demander s'il existe une corrélation entre ce qui est le plus fréquemment commenté et ce qui est susceptible d'être porteur d'émotions. Mais attention à ne pas tomber dans le piège de l'analyse quantitative, ces outils ne sont pas forcément adaptés en tout point à mon corpus. En effet, ce genre d'outils, notamment l'analyse lexicométrique, s'applique très bien à des études en analyse textuelle sur des textes où les émotions sont directement nommées. Si on pense par exemple au poème, je sais pas, les fleurs du mal, rien que dans le titre, éventuellement, l'alchimie de la douleur. Les émotions sont directement nommées. Ce n'est pas forcément le cas dans le commentaire sportif, puisque l'émotion, elle est multiforme. Et le recours à l'analyse fine des formes plus discrètes de l'émotion, comme les rires, les soupirements ou bien les silences, s'impose. Ces outils présentent donc principalement l'avantage d'orienter et de cibler la recherche sur les manifestations linguistiques de l'émotion, mais il ne faut pas délaisser le recours à l'analyse qualitative et à la fouille des données. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Caroline, pour cet essai transformé. On dit ça passe en général quand c'est la transformation. Alors, les organisateurs et les organisatrices ont prévu un petit temps de questions, donc je vous propose de noter vos questions et vous pourrez intervenir après la présentation de Jean-Noël Priot, que je vais inviter à se placer à ce micro. Est-ce que vous avez une présentation PowerPoint, Jean-Noël?
Oui,
je voulais laisser la mettre en place. Vous nous venez d'Angoulême et vous allez nous présenter votre présentation intitulée « Aléa et e-links, une fin du divertissement ».
Tout à fait. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier l'Espace Mendès France et Jérôme Grévy également de m'avoir permis de m'exprimer aujourd'hui devant vous. Qu'il s'agisse d'axes sociologiques, philosophiques ou encore historiques, le traitement du jeu vidéo s'est toujours effectué par le prisme d'ancrages scientifiques externes en quête d'une redynamisation de leur propre domaine de recherche. Tout objet ludique pouvant se livrer volontiers au détournement, au remploi ou encore à la grève de contenu déterminé par les utilisateurs, ces emprunts externes aux objets ludiques ne sont donc pas surprenants. Cependant, après l'usage social de Johan Huizinga et la classification établie par Roger Caillois, qu'en est-il de la question ludique, à l'heure où son usage s'étend à tous les domaines de la société humaine? Alors même que ses diverses caractéristiques dépassent les frontières poreuses qui lui sont d'ordinaire attribuées et auxquelles on l'imagine encore parfois contrainte, récréation, oisiveté, détachement vis-à-vis du réel, activité subalterne, destination infantile, inconséquence de propos, etc., l'objet ludique serait-il libéré du sceau du divertissement qui lui était sans cesse apposé? Afin de répondre à cette question, il faut s'intéresser plus spécifiquement à ces objets, à leurs usages et à leur place dans notre société. Si ces derniers jouissent aujourd'hui d'une réputation acceptable, ils furent l'objet d'accusations et de méfiances notables, notamment au cours des années 90. Incitation à la violence, défiance de l'autorité parentale, dissidence vis-à-vis des normes établies par la société. On peut d'ailleurs noter, par exemple, les dernières interventions du président américain suite aux violences d'El Paso et Dayton. Ces contenus pléthoriques et diversifiés lui auront tout de même permis de s'imposer comme une industrie culturelle dominante aux côtés d'autres objets culturels tels que le cinéma. Bien plus important encore, L'émergence et la vivacité d'une scène indépendante aujourd'hui bien installée et qui propose des expériences ludiques qui osent dépasser les cadres traditionnels de la fiction ludique, quête initiatique, action rythmée, conquête du pouvoir, etc. Et qui destine donc le jeu vidéo à un plus vaste public de joueuses et de joueurs. À ce titre, il est nécessaire de réintroduire deux notions empruntées à Roger Caillois, l'aléa et l'ilinx, auxquelles il faut également adjoindre Agon et Mimicry, qui sont les quatre classifications établies par Roger Caillois dans l'ouvrage « Les jeux et les hommes » et qui articulent la notion de jeu autour de ces axes que l'on pourrait traduire comme suit et dans l'ordre la chance, le vertige, la compétition et le simulacre ou faire semblant. Si je choisis immédiatement d'écarter Agon, compétition et Mimicry, simulacre ou faire semblant, c'est parce qu'il constitue aujourd'hui le fer de lance de la production vidéoludique AAA, et qu'à force de reproduction des modèles de production et de développement, abandonne tout espace d'expression pour cette chance ou ce vertige. A l'inverse, avec des objets emblématiques tels que The Binding of Isaac, en 2011, d'Edmund Macmillan, The Stanley Parable, en 2013, ou encore le plus récent Baba Is You, en 2019, on peut constater une forte prégnance de l'aléa et de l'ilinx et une disparition de la gonne et de la mimicry progressive. L'expérience vidéoludique inédite et non conventionnelle prend donc le pas sur des phénomènes de répétition, d'engagement et d'immersion qui constituent le cœur fonctionnel des divertissements vidéoludiques. Il s'agira donc aujourd'hui d'interroger ces notions comme vecteurs de recherche propres aux jeux vidéo. En préambule, il convient de proposer un point définitionnel et de proposer une description sommaire de ce que serait un jeu vidéo ou un jeu. Pour commencer par l'évidence et pour convoquer les notions précédemment citées, je vais réintroduire donc les catégories proposées par Roger Caillois, qui sont donc Agon, compétition, Mimicry, simulacre ou faire semblant, Aléa, la chance, et Ilinx, ou l'aléatoire d'ailleurs, et Ilinx, le vertige. Si ces quatre catégories permettent de définir un cadre dans lequel placer un objet ludique ou vidéoludique, il convient d'y ajouter les notions de Paidia et de Ludus, lesquels constituent un véritable levier entre l'expression ludique la plus dépossédée de contraintes et, au contraire, celle régie par des règles. Ainsi, Paidia représente le spectre ludique libre, qu'il est possible de rapprocher du jeu d'enfant, où l'improvisation et la spontanéité l'emportent sur le respect de règles, qui n'existent d'ailleurs pas forcément, tandis que Ludus, au contraire, représente l'aspect le plus réglementé de l'activité ludique, plus simplement appelé les règles du jeu. Ainsi, pour qu'il y ait activité ludique, il y ait, l'établissement et l'acceptation d'un pacte ludique est nécessaire. Ce pacte forgera un cadre commun, réglementé et accessible pour que quiconque puisse jouer et ménagera suffisamment d'espace en son sein pour que chaque utilisatrice et chaque utilisateur puisse librement exprimer sa personnalité. Le jeu se définit donc en premier lieu comme une tension perpétuelle entre liberté et contrainte, elle-même dynamisée par différentes caractéristiques que sont, notamment ici, Agon, Mimicry, Aléa et Ilinx. Toutefois, n'est effleurée ici que la dimension technique de l'objet ludique, et l'on ne peut parler de jeu sans évoquer les fonctions sociales qui constituent en réalité le fondement de toute activité dite ludique. Si des chercheurs comme Johan Huizinga et Laurent Trémel ont étudié en détail les phénomènes à l'œuvre dans l'activité ludique et ses fonctions sociales, ils ont avant tout mis en évidence, et c'est sans doute le point le plus fondamental, le fait qu'il n'est pas d'activité ludique, quelle qu'elle soit, sans fonction sociale. Par extension, et si l'on suit les propos de Johan Huizinga, notamment dans Homo Ludens, il n'est pas d'activité humaine qui puisse être dissociée absolument de toute forme de ludisme, aussi infinitésimale soit-elle. À cet égard, Laurent Trémel met parfaitement en évidence le fait qu'aux diverses pratiques qui traversent les différentes communautés de joueuses et de joueurs, des mondes se façonnent, mutent et disparaissent comme autant de communautés traversées par des événements, des fulgurances et des défaites qui conduiront irrévocablement à leur disparition ou à leur pérennisation. Le sujet déborde sur l'objet et l'objet déborde sur le sujet. Il est donc désormais possible de donner une définition fonctionnelle au jeu, une activité ludique déterminée par un cadre spécifique, le pacte ludique, pacte régi par un ensemble de règles plus ou moins contraignantes, mais laissant un certain espace d'expression aux utilisatrices et aux utilisateurs. De plus, l'activité ludique, même solitaire, ne saurait être dépossédée de sa fonction sociale, puisque que ce soit dans son caractère conflictuel ou transmédiatique, cette dernière invite aux échanges entre individus avec les autres, eux-mêmes, ou encore avec le dispositif ludique en place. Ainsi, est-ce dans ce répertoire de caractéristiques, de catégories, de fonctions ou encore d'usages qu'il est nécessaire de puiser afin d'agrémenter la recherche de moyens d'approche ludique ? Si j'ai choisi de mettre ces différents points en avant, c'est justement pour les écarter. Si leur fonction et leur usage demeurent utiles et nécessaires pour construire les bases d'une réflexion et d'une interrogation, force est de constater qu'à moins de les évincer pour proposer d'autres outils d'analyse destinés aux objets ludiques et vidéoludiques, la recherche prend le risque de ne plus être à même d'approcher les pratiques techniques et sociales liées au milieu du jeu vidéo et du jeu les plus récents et aux mutations régulières et chaotiques. Est-ce à dire qu'il est alors nécessaire de tout abandonner des travaux précédemment cités ? Bien sûr que non. Il convient cependant de mettre en avant certaines de ces notions et catégories davantage que d'autres. Les catégories de Roger Caillois donc constituent à ce titre un premier réservoir de notions au sein duquel puiser, non plus pour les employer telles qu'elles sont, mais afin de mieux appréhender les phénomènes à l'œuvre dans les différentes scènes ludiques et vidéoludiques contemporaines. Bien évidemment, si certaines sont retenues, cela implique que d'autres sont écartées. Il sera également nécessaire d'expliquer les raisons motivant ces choix. Pour commencer, sont écartés agone, compétition et mimicrie, simulacre ou faire semblant, qui représentent, comme énoncé plus tôt, le socle des productions AAA, compétition donc et simulacre. Mais au-delà de cette assertion qui pourrait sembler dénoncer un modèle de production spécifique, il s'agit avant tout d'en mettre en avant le fait que ces deux catégories ont fini par se constituer en véritable tautologie, le critère d'analyse devenant la compétition et le vraisemblable, du fait de leur surreprésentation. On ne saurait appréhender comme jeu tout objet ludique ne relevant pas fortement de ces deux catégories. Ainsi, l'approche des jeux vidéo s'en retrouve limitée du fait de la surexposition de ces deux catégories. En revanche, plus complexes à appréhender et bien moins stables du fait même de leur fonctionnement, aléas et e-links, aléatoires, chance et vertige, offrent davantage de perspectives quant à l'élaboration d'outils de recherche destinés aux jeux vidéo. Si la chance et le vertige se prêtent donc davantage à ce façonnement, c'est du fait de leur maniabilité, bien sûr, mais également de leur résilience. Cette chance et ce vertige, que sont-ils ? Plus que le caractère chanceux et ou vertigineux d'une action entreprise en cours de partie, ils témoignent d'une réalité profondément ancrée dans les objets vidéoludiques, celle d'une maîtrise et d'une placidité bien moindre que ce à quoi l'on pourrait s'attendre. Plus encore que la simulation de l'indétermination, qui est d'ordinaire générée dans les jeux vidéo par ce qu'on appelle communément la RNG pour le Random Number Generator, c'est de l'incapacité des utilisatrices et utilisateurs à appréhender l'apparition et l'émergence de certains phénomènes au sein de ces dispositifs que se dessine une piste quant à ce que le vidéoludisme pourrait proposer à la recherche en termes d'appareillage théorique. À cette fin, certaines pratiques, comme le speedrun ou le tool assisted speedrun, nous renseignent sur les comportements à adopter et les méthodes propices à la mise en disposition des chercheurs et des chercheuses vis-à-vis de l'étude des objets vidéoludiques. En quelques mots, speedrun et tool assisted speedrun sont des disciplines issues de l'activité vidéoludique et qui consistent à achever un jeu vidéo dans les plus brefs délais, deux mains de joueuses et de joueurs pour le speedrun et assisté par logiciel pour le tool assisted speedrun. Au-delà de l'évidente compétitivité qui semble se dégager de ces pratiques, c'est avant tout la dimension expérimentatrice entreprise par les pratiquants de ces disciplines qu'il convient de mettre en avant. En effet, speedrun et tool assisted speedrun exigent toutes deux de se livrer à de longues séquences d'essais, d'échecs, de mises à jour et de répétitions avant de parvenir à un résultat. Plus encore qu'une performance, c'est un apprentissage et une acceptation de toutes les facettes d'un objet vidéoludique choisi. Intégration de routines de jeu, mécaniques émergentes, compréhension et usage de phénomènes et comportements non prévus dans le système, plus communément appelés des bugs et des glitches. Et d'une activité de veille informationnelle et théorique au service de sa discipline et de l'amélioration de sa pratique. Pour illustrer ça, je vais vous proposer un court extrait issu du speedrun d'un jeu qui s'appelle Final Fantasy IV et d'un glitch en particulier qui s'appelle le glitch des 64 étages. Donc, très brièvement, pour vous expliquer de quoi il retourne, il va s'agir par des manipulations au sein du jeu de manipuler la mémoire de la machine afin de se retrouver non pas à un endroit spécifique, mais de se retrouver des heures plus tard dans un autre espace. Thank you. peut-être que je ferme le...
Oui, je pense qu'il faut fermer le...
Le diapo.
Le diapo et passer l'image.
Donc maintenant. C'est censé lancer automatiquement.
Ça veut pas aller sur la fenêtre ?
Non, et puis ça se lance même plus.
Si vous ouvrez en bas le petit fil, là, c'est tout à droite, la petite clame, parce que c'est bon, là, ça y est, c'est bon, là.
Parfait. Je vais vous le couper ici, mais bon, parce que c'est suffisamment représentatif. Vous avez vu notamment, à un moment donné, l'image qui s'est glitchée d'elle-même. Il n'y avait plus de repères temporels ou spatiaux. Et c'est on est entré en réalité dans la mémoire de la machine. Il s'agit d'altérer la mémoire de la machine pour se retrouver à un point qui est des heures plus tard en réalité dans le jeu. Alors maintenant, il faut réussir à revenir sur le diapo. Si l'ensemble de ces critères est essentiel quant à la conduite de ces disciplines, c'est avant tout la dynamique praticienne qui leur permet de fonctionner et de parvenir à proposer des expériences vertigineuses issues de nombreux éléments aléatoires. Car c'est le caractère imprévisible et souvent mystifiant des phénomènes rencontrés qui motive la pratique récurrente et répétée des pratiquantes et des pratiquants. Elle permet donc l'avènement de ces performances, trop souvent renvoyées à leur simple dimension spectaculaire et compétitive. Ce bref descriptif nous renseigne sur un premier outil ludique à destination de l'activité recherche, la praxis. Un bref rappel de ce dont il s'agit, c'est un concept aristotélicien désignant l'action qui transforme le sujet et qui s'écarte de la contemplation et de la théorie. En effet, pour des objets aux mutations endogènes et exogènes récurrentes, régulières et souvent spontanées, on ne saurait appréhender les phénomènes ludiques sans s'y confronter directement et parfois en convoquant un temps long qui semblera empiéter sur le temps de la recherche. Ce temps long est pourtant nécessaire, puisque certaines mécaniques de jeu, certains phénomènes et certaines émergences ne peuvent être constatées qu'au prix de cette abnégation. Comme énoncé plus tôt, ce n'est qu'en appliquant une discipline stricte face à la pratique que le chercheur peut dépasser le cadre méthodologique des disciplines parentes. Le cas échéant, risque est pris de voir des pans entiers de la recherche se reposer sur la parole d'aîné, certes nécessaire, mais certainement pas indépassable. Dans le cas qui nous intéresse, les travaux de Kaiwa et Huizinga sont-ils l'alpha et l'oméga des critères de définition de ce que sont les objets ludiques? Et si tel est le cas, les objets vidéoludiques ont-ils atteint leur ultime destination, de purs produits de l'industrie culturelle à seule vocation de divertissement? Afin de mieux saisir les enjeux relatifs à ces questions, il convient de s'intéresser aux différentes scènes issues du jeu vidéo. J'ai d'ores et déjà évoqué ici les scènes du speedrun et du tool-assisted speedrun, mais que dire du modding, de la fanfiction, de la production musicale associée, du développement participatif, du serious game, du pixel art, des productions littéraires individuelles et communautaires comme on peut avoir pour Dwarf Fortress notamment. Inutile de m'étendre davantage, au-delà du spectre du divertissement comme seul horizon d'attente, il n'y a pas une, mais des scènes issues d'activités vidéoludiques nombreuses et prolifiques. Cependant, je viens ici d'exposer un ensemble de domaines et de phénomènes pris en charge par leurs utilisateurs et utilisatrices, expérimentés et agrémentés de réflexions et de productions, et qui en maîtrisent ensemble de nombreuses clés à même de leur permettre de naviguer dans ces eaux tumultueuses. Vous n'aurez cependant pas manqué de noter l'absence d'un spécimen particulier au sein de cet écosystème, le chercheur, et pour cause, la non-éligibilité du jeu vidéo en tant que discipline universitaire propre. Bien évidemment, les sujets du traitant du jeu vidéo, comme objet, ou bien encore dans lesquels le jeu vidéo se veut un renfort de recherche, existent bel et bien. Mais rares sont ceux à l'envisager comme un objet à part entière. Il ne s'agit là nullement du fait d'une paresse intellectuelle ou d'un mépris affiché vis-à-vis de ce médium, mais cela témoigne en revanche des raisons qui motivent par défaut ce type d'analyse, un clair manque d'outils conceptuels et théoriques qui permettraient une approche de l'objet. Comme je l'énonçais plus tôt, la praxis m'apparaît comme une première ébauche d'outils à même de servir cet intérêt. Plus que le seul constat d'une démarche d'action, cette même praxis fonde les bases à l'élaboration d'un autre outil ludique transmédiatique, la rugosité, convoquant à l'esprit une résistance, une dureté propre aux objets où elle se manifeste. Il convient d'en exposer les caractéristiques. Quel que soit le jeu expérimenté, il est possible soit de suivre les règles qui y sont établies, comme nous sommes conviés à le faire, soit au contraire de faire fi de cette hospitalité et d'interagir avec un jeu donné en dépit des règles établies, voire d'y établir ses propres règles. Ces méthodes d'approche, que je qualifierais d'invitation et d'effraction, constituent les fondamentaux de cette rugosité. Ainsi, si un jeu peut se revendiquer d'appartenir à un genre spécifique, ou si lors du premier contact, l'expérience semble révéler des éléments propres au dit genre, la rugosité permet de penser des états dépassant les cadres initiaux proposés par les jeux vidéo pratiqués. Pour illustrer cela, je vais vous proposer un second extrait. C'est passé au blanc, intéressant. Je vais vous laisser le regarder et j'illustrerai après le propos si vous le voulez bien. Donc on va avoir probablement la même problématique que tout à l'heure. Donc le jeu en question, c'est Sekiro Shadows Die Twice, le temps que j'arrive à vous projeter la vidéo, du studio From Software, sorti en 2019. Oui, voilà, c'est ça. Ah. Ça y est. Ça va pas du tout fonctionner, puisque justement le son est un peu essentiel pour la démonstration. Donc là, on est clairement face à un jeu qui aussi se présente comme un jeu d'action, de combat, avec un style graphique qui rappelle donc le Japon, et on a l'impression qu'on est dans une dynamique d'action perpétuelle. En réalité, à l'épreuve de la rugosité et donc à l'épreuve de la praxis, on est face à un jeu de rythme, comme on peut le voir notamment représenté à l'écran à travers le game design, où les impacts, la parade, sont celles du joueur qui vient imposer le rythme de l'action, avec les kanji qui viennent imposer un contre-temps. On est dans une dynamique musicale plus qu'en réalité dans une véritable dynamique d'action, en définitive. La rugosité... Et si je remettais le diapo, ce serait mieux. Désolé pour tous ces petits impairs. La rugosité oscille donc entre ces deux caractéristiques, invitation et effraction, qui permettent d'approcher des objets aux accès multiples et auxquels il est nécessaire de se confronter directement afin d'en appréhender différents aspects. Si la praxis se veut un outil fonctionnel permettant d'établir une approche praticienne avec le médium vidéoludique, la rugosité, pour sa part, se constitue davantage comme un outil d'approche permettant de déceler d'éventuels objets dissimulant plus que ce qu'aura révélé un contact initial. Cette rugosité révèle un état d'esprit à adopter lors de l'approche des objets soumis à l'épreuve de la praxis. Ainsi, plus que des outils disparates qu'il conviendrait d'employer selon tel ou tel critère, il s'agit de proposer une approche complémentaire qui viendrait s'adjoindre aux différents acquis théoriques afin d'appréhender objets et médias en sa qualité de joueuse ou de joueur, ou plutôt d'ailleurs de joueuse-chercheuse ou de joueur-chercheur. Car le déploiement de ces outils et l'approche qui naît de leur interaction n'est rien de moins que l'approche des pratiquantes et pratiquants vis-à-vis de leurs objets favoris. Une qualité supplémentaire qui peut être dégagée à l'issue de cette exposition n'est autre que le caractère profondément transdisciplinaire que permettrait l'emploi d'une dynamique de recherche ludique. Plus qu'un angle d'approche vidéoludique appliqué à d'autres médias, il s'agit davantage d'une méthode applicable permettant d'approcher des objets issus de différents médias pour eux aussi les soumettre à l'épreuve de la praxis et du temps long. Bien sûr, ces aspects ne sont pas exempts de contraintes. Tout d'abord, il s'agit d'une activité coûteuse par bien des aspects, temporels, financiers, techniques. Ensuite, et comme le suggèrent le temps long et la pratique ludique, pareille activité se veut extrêmement chronophage, sans quoi impossible d'appréhender un objet dans toute sa complexité. Il s'agit donc de parvenir à ménager le temps nécessaire aux objets qui le requièrent. Je me propose donc, avant d'en finir, d'introduire ou de réintroduire la notion de valeur, outil qui se voudra nécessaire à la bonne distribution d'un temps de recherche. En préambule, je m'engage à la prudence. Point de jugement hâtif visant à séparer le bon grain de l'ivraie ici. Ce sujet est souvent sensible et vu comme un simple moyen de jeter l'opprobre sur tel ou tel objet avant de se gargariser de la supériorité du sien par rapport aux autres. Ce sont d'ailleurs ces mêmes travers qui nous ont amenés à abandonner la question de la valeur dans l'ensemble de nos échanges. Cette question peut sembler bien éloignée du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Elle me semble pourtant centrale. Il nous faut entendre par valeur le positionnement éthique d'un individu par rapport à sa propre subjectivité, l'assumation idéologique d'un propos par rapport à un objet. Cette prise en charge de la valeur permettrait à terme d'engager une certaine conflictualité entre individus qui n'est pas sans rappeler la rugosité précédemment citée, seul moyen de prétendre à une quelconque forme d'objectivité. Plus que des consensus creux où chaque communauté de pensée n'échange qu'entre individus de même obédience, il nous faudrait en réalité faire corps avec la proposition de définition faite de ce qu'est un jeu, une tension entre les règles et les espaces d'expression qui s'y immiscent, s'y croisent, s'y heurtent et parfois s'agrègent. Ainsi, ces ébauches d'outils ludiques que sont praxis et rugosité ne servent-elles plus seulement le médium qui les génère, mais permettent de repenser l'activité de recherche vidéoludique. Je me propose désormais de mettre un point final à cette intervention en répondant à la question introduisant cette communication. Aléa et Ulinx, une fin du divertissement ? Certainement pas. Pourrait-on parler de jeux si nous ne nous amusions pas ? En revanche, faisons confiance à ces jeux, à leurs joueuses et à leurs joueurs, pour nous proposer des détournements hasardeux et vertigineux. S'il est une constante sur laquelle le consensus est de bon augure, c'est sur la capacité sans limite que possède ce médium, ses utilisatrices et ses utilisateurs, à déclencher des détournements sur eux-mêmes et sur leur environnement. Merci de votre attention.
Merci à tous les deux pour le très bon respect des timings qui nous a permis d'une part de revenir au temps imparti, même de gagner quelques minutes, ce qui nous laisse un petit peu plus d'un quart d'heure jusqu'à la pause de 11h qui a été fixée à 11h pour poser vos questions. Est-ce que il y a un micro donc, qui est disponible pour circuler dans la salle, donc s'il y a d'entrée de jeu des questions, ou peut-être que vous comptez sur moi pour amorcer, mais je sais qu'à la fin on n'aura plus le temps pour les dernières. Une première question, et je vais me tourner vers Caroline dans un premier temps. Dans votre présentation, vous avez à un moment parlé d'une tradition du commentaire sportif. Alors évidemment, vous êtes sur une analyse des contenus, on l'a vu avec un protocole où des spectateurs, auditeurs réagissent aux commentaires. Mais peut-être juste dans une idée un peu de recontextualisation, est-ce qu'on, comment on resitue cette tradition du commentaire sportif ? Est-ce qu'il faut se tourner vers le spectacle forain, vers le bonimenteur ? Est-ce qu'on sait un petit peu les origines ? Est-ce qu'il faut que ce soit médiatisé pour qu'il y ait commentaire sportif ? Ou, et est-ce que ça, c'est des choses aussi qui vous qui permettent un peu de resituer ce phénomène-là ? Est-ce que vous avez des pistes ? Et puis, j'avais une question également, mais je la mets donc puisqu'elle vous concerne tout de suite dans la balance, c'est la question du commentateur journaliste et du consultant. Et est-ce que là, il y a des rôles qui sont donnés à l'un et à l'autre et que ça a un effet, par exemple, sur les mots employés par les uns et par les autres ?
Je commence par la première question. Donc, sur la question de la tradition historique, effectivement, ça reste du jeu, donc du coup c'est une pratique sociale, et en fait moi je pense que le commentaire il a aussi lieu à la maison, donc c'est tout le monde qui pratique le commentaire sportif. Après il y a des personnes qui sont embauchées lors des Coupes du Monde pour faire ce commentaire devant les téléspectateurs, mais ça reste quelque chose de d'assez populaire. Souvent on évoque les accents régionaux pour le rugby, on me dit pourquoi pas faire une étude là-dessus, tout ça. Après, moi, là, pour le moment, je me suis pas forcément intéressée, aux commentaires dans tout ce qui est rapport avec le milieu forum. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de mettre en regard le commentaire sportif télévisuel avec le commentaire sportif radiophonique, puisque à la base, en fait, il fallait être beaucoup plus précis dans ce commentaire-là, même encore dans le commentaire radiophonique. Il s'agit de situer les éléments de manière beaucoup plus précise que du coup, ce que j'essayais de montrer, que j'ai fait de manière un petit peu rapide, c'est que les images, en fait, maintenant prennent le relais aussi dans le commentaire télévisuel. Enfin, voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais ça donne des pistes. Et pour ce qui est du journaliste et du consultant, effectivement, ce sont bien deux rôles distincts. Le journaliste, en fait, lui, il est formé pour transmettre des informations, c'est-à-dire que c'est lui qui va être en charge, par exemple, de dire que tel joueur, il jouait dans tel club, même si le consultant a aussi ces informations, puisqu'il est en général un ancien joueur, donc forcément il s'y connaît, mais c'est plutôt le journaliste qui est en charge de ces informations-là, et aussi de commenter le match en direct. Le consultant va avoir plus de place pour le commentaire, le retour réflexif. Comme je disais tout à l'heure, le verbe falloir, j'ai pas eu le temps de tout préciser, mais en fait c'est beaucoup Bernard Laporte le consultant de manière générale qui dit il aurait fallu, il faudrait, faire ça. Donc on peut observer une répartition aussi dans la parole, et le journaliste parle aussi plus proportionnellement. Voilà.
Il y a une question devant.
Bonjour, ça marche là ? Ouais. Émile Célimena, j'avais une question pour vous, Caroline Fontagnol. D'abord, un commentaire, c'est que... merci pour vos deux exposés, d'ailleurs, c'était très intéressant. Un commentaire, c'était au niveau des... Ça m'a fait penser, en fait, au niveau du rôle du commentateur. Il y a Henri Bergson qui dit qu'au niveau des émotions, il ne s'agit pas tant pour une émotion d'entrer en nous que de nous d'entrer dans une émotion. Et je pensais au rôle du commentateur pour essayer de nous faire entrer collectivement dans le stade peut-être, mais surtout devant nos écrans de télévision, pour rentrer tous collectivement dans une émotion. Et bref, c'était une idée. J'avais une question plutôt un peu interculturelle. C'était, j'ai l'habitude de voir des matchs de foot, ça peut être aussi de rugby, mais en France avec des Brésiliens, ou alors au Brésil, avec des Brésiliens aussi. Et je me remarquais que les Brésiliens en France trouvaient que les commentateurs étaient assez plats. Il n'y avait pas beaucoup d'émotions, il n'y avait pas assez de... Et c'est vrai que moi, quand j'entends des matchs de foot au Brésil, je trouve qu'il y a une émotion très forte. Quand il y a un but, c'est un déchaînement, c'est waouh. Et je voulais savoir si vous pensiez à des perspectives, par exemple au niveau du rugby interculturel, par exemple en Nouvelle-Zélande ou alors en Argentine, peut-être que les Argentins sont plus expansifs aussi, je ne sais pas. Et voilà.
Tout Tout à fait. Alors, merci pour votre remarque qui est tout à fait pertinente, qui pose aussi la question de l'émotion naturelle ou jouée, comment est-ce qu'elle est transmise. Enfin, c'est des vraies questions, donc je ne vais pas avoir le temps maintenant. Mais sinon, sur la question des différences un peu culturelles dans le traitement du commentaire, justement, dans le projet, en fait, je n'ai pas eu le temps de tout dire, donc ça tombe bien. En fait, on a un corpus qui est comparable en anglais et en français. Donc, bon, ce sera une première piste, c'est pas forcément du portugais. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, ça nous intéresse. Là, je peux pas en dire grand-chose. C'est une remarque qu'on me fait beaucoup, notamment voilà, sur ces commentateurs d'Amérique centrale ou du Sud, enfin, qui sont dans une autre émotion. En tout cas, ce qu'on peut quand même dire, c'est que là, ce que vous évoquez, c'est quand même une excitation qui est bon. Amplifié. Je pense que ça, peut-être que c'est la même nature d'émotion, peut-être que culturellement on l'exprime moins, mais bon, je pense que c'est pas complètement différent. Donc peut-être que voilà, il y a des cultures dans lesquelles on exacerbe davantage. Mais oui, à voir.
Bonjour et merci aux deux intervenants pour la qualité de leur présentation. J'avais en fait une question pour chacun d'entre vous. Alors la première concerne effectivement la question du commentaire sportif. Et est-ce que vous avez travaillé sur le caractère extrêmement paradoxal en fait de ce commentaire, puisqu'une partie du commentaire sportif est constituée d'encouragements et que ces encouragements ils sont donc destinés à des joueurs et que ces joueurs ne les entendent pas. Donc, quand on entend un commentateur qui dit pas, qu'il faut relancer, qu'il faut aller à droite, qu'il faut aller à gauche, etc. Donc, il y a quand même un élément tout à fait paradoxal dans ce discours, puisque dans une certaine mesure, effectivement, c'est presque du discours de bord de terrain qui s'adresse à des joueurs, sauf qu'en l'occurrence, on s'adresse à des spectateurs. Donc, est-ce que vous avez réfléchi et qu'est-ce que vous pouvez éventuellement nous dire de cette question-là? Et la deuxième question, en fait, elle concerne l'autre intervention, et en l'occurrence, celle, effectivement, du speedrun. Alors, moi, j'avais tendance, en fait, et vous avez montré que ce n'est pas que ça, à la lier à une autre forme de consommation, on va dire, de produits vidéo, à savoir celle du binge-watching, et donc celle qui consiste effectivement pour de nombreuses personnes à voir des séries de manière extrêmement rapide et à, entre guillemets, comme on dit, à avaler une, deux, trois saisons en l'espace de quelques jours. Est-ce que vous voyez éventuellement un lien entre ces deux pratiques ou pas du tout? Voilà.
Merci pour votre question. Donc effectivement, oui, c'est une de mes grandes préoccupations. Je pense qu'il y a autant d'explications que de comportements, c'est-à-dire qu'il va y avoir tous ces moments, attention, où vraiment, là, ça sort, comment dire, naturellement, comme ça rejoint aussi un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme quand on est devant sa télé. Bon, là, en l'occurrence, il s'agit de Bernard Laporte, qui est l'ancien entraîneur donc, de l'équipe de France, donc il a aussi des réflexes, je pense, donc par rapport à son regard critique sur ce qui se passe. Et puis sans doute qu'effectivement il s'agit aussi de jouer là-dessus, pour créer quelque chose avec les téléspectateurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est aussi dans une volonté de faire de l'audience. Donc on attend du commentateur qu'il soit excité, comment dire, qu'il encourage en fait, parce que si on avait un commentateur monotone qui dit rien, bon, je pense que très vite il serait remplacé. Donc effectivement, c'est une question intéressante. C'est vraiment la question de l'implication, l'identification en fait du commentateur au jeu lui-même. Mais ça, c'est intéressant pour le commentateur, mais c'est aussi intéressant pour les téléspectateurs qui vont dire, ou même les Français par exemple pour la Coupe du Monde de la France, où la France a gagné. On a gagné. Moi, ce on aussi, il m'intéresse. Je trouve qu'il rejoint un petit peu cette perspective-là d'identification. Donc il y a des questions très intéressantes, justement. Ouais. Voilà.
Jean-Noël.
Je ne pense pas qu'il y ait un lien direct entre le binge-watching et puis le speedrun, puisque le binge-watching, en général, ça consiste à regarder effectivement de manière compulsive, parfois plusieurs séries à la fois, de manière en suivant, alors que la pratique du speedrun se concentre sur un objet. le speedrunner ou la speedrunneuse va sélectionner un objet, en général qui a eu qui a une histoire forte, personnelle, parce que c'est une pratique qui va être régulière, permanente, et qui peut s'étendre parfois sur plusieurs années, sur le même objet, toujours, systématiquement.
Est-ce qu'il n'y avait pas une main qui s'était le... Ah.
Bonjour, Sophie Etienne. J'interviens tout à l'heure d'ailleurs. J'étais très, très intéressée par les deux interventions et je me suis beaucoup accrochée pour tout suivre ce que disait Jean-Noël. C'était extrêmement riche, mais il fallait vraiment s'accrocher. Ça allait très, très vite. Et donc, j'ai saisi quelques informations de-ci, de-là, mais je serais vraiment intéressée à voir ton intervention, si c'est possible, pour pouvoir la relire à tête reposée. Et ce que je voulais dire, c'est que j'étais impressionnée aussi par cette façon de sortir du cadre et de dire que ben, y a des référents qui existent, mais ils ne sont pas suffisants pour analyser une problématique qui est interdisciplinaire. Et je connais bien ce sujet parce que moi-même, j'ai des axes de recherche qui étaient nécessairement interdisciplinaires, où on est souvent bloqué, on doit aller dans un sens, avoir ses référents universitaires, et les référents ne correspondent pas nécessairement. Et j'ai vraiment bien aimé cette façon de sortir du cadre. Et par ailleurs, il y avait toute cette analyse des jeux vidéo, donc j'ai bien compris que c'était la question. Moi, je travaille davantage sur les jeux en présentiel et j'aurais voulu savoir si vous aviez eu l'occasion de faire un comparatif entre les jeux en présentiel et les jeux vidéo. Et aussi, petite question, il y a un étudiant qui m'a présenté le jeu Smash Bros, je ne sais pas le prononcer comme il faut, mais qui m'a l'air super intéressant puisqu'il fait appel à des personnages d'autres jeux vidéo, qui m'a l'air très riche. Est-ce que c'est un jeu qui a été étudié ?
Alors, malheureusement, je ne suis pas compétent pour vous répondre sur la question du jeu en présentiel. Moi, je travaille exclusivement sur le jeu vidéo en réalité, donc je suis pas compétent pour vous répondre par rapport à ça, malheureusement. Pour ce qui est du jeu donc, que vous convoquez, qui doit être Super Smash Bros. Brawl, je suppose, c'est un jeu à forte dimension compétitive et sociale, en réalité. Et ce qui est intéressant, c'est comment ce jeu réintroduit dans les salons une dimension par l'intermédiaire de l'écran, justement, de réinjecter du social dans le lieu de vie. Parce que, justement, modèle référentiel très, très vaste qui exploite énormément de licences et qui permet de convoquer beaucoup d'individus autour de la table, si l'on puisse dire, c'est un phénomène intergénérationnel à certains égards. Et c'est ça qui est intéressant. Mais après, c'est aussi une marque de l'industrie culturelle Nintendo qui a fait de son fonds de commerce la question de la famille et du contact intergénérationnel.
Bon, merci pour vos deux interventions. J'aurais deux petites questions pour Jean-Noël Priot. Tout d'abord, est-ce que vous avez pensé, en plus de la réflexion de Huizinga et de Kaiwa, d'ajouter à cela la dimension du game et du play, c'est-à-dire le game comme objet et règle, enfin le jeu comme objet avec règles et le play comme attitude ludique, ce qui permettrait peut-être aussi de distinguer d'autres formes d'attitudes ludiques dans les différentes propositions que vous faites. Et ma deuxième question, c'est, selon vous, comment vous percevez l'e-sport, le développement de l'e-sport ? Est-ce que pour vous, c'est purement de la gonne ? C'est-à-dire qu'on classe avec les AAA, en sachant que certains jeux dans l'e-sport ne sont pas forcément que du AAA, ou est-ce qu'il y a quand même une dimension sociale autre qui fait appel à l'ALEA ou à Linux ?
Pour la première question, oui, c'est vrai que j'aurais pu effectivement convoquer ici les notions de game et de play, mais j'avais peur que je trouvais que c'était un peu redondant avec la question de la Paidia et de l'Oudouze. Je trouve que ces notions se calquent un petit peu et sont en réalité très très proches. Alors, il est vrai que la notion en revanche qui aurait pu être intéressante de développer ici, c'est surtout celle de play qui m'intéresse davantage, puisqu'elle prend plus en charge les utilisateurs, les joueuses et les joueurs qui sont, à mon sens, les chercheurs de l'objet, puisqu'ils sont dans une pratique critique permanente de leur objet et de manière extrêmement communicative et sociale. Donc la question du play, oui, serait vraiment centrale par rapport à cela. Ensuite, pour la seconde question, qui était...
Excusez-moi. Sur l'e-sport.
Sur l'e-sport, merci. Alors, je pense que l'agone est au fondement de l'e-sport, puisqu'il ne peut pas y avoir de sport sans compétition. C'est pas, que ce soit d'ailleurs face à d'autres joueurs ou face à un dispositif, hein, on pourrait imaginer cela. Mais en revanche, ce qu'a réussi à garder l'e-sport par rapport à cela, sans évacuer l'aléa, n'est pas présent, à mon sens. Mais par contre, l'e-links peut être présent, puisque comme dans dans le rugby, même si je ne suis pas du tout calé sur la question, il y a des fulgurances, des performances de joueurs qui font quelque chose d'extraordinaire, et donc là, il y a un caractère vertigineux. Du côté spectateur, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir des niveaux de jeu différents, parce que ce qui est intéressant par rapport à cela, c'est de pouvoir critiquer leur propre pratique et de la comparer à celle de personnes dont c'est, au définitive, ou dont c'est le métier, en réalité. Ce qui est intéressant avec la scène e-sport, c'est de voir comment ça va altérer les comportements des joueurs et des joueuses vis-à-vis d'un médium. Est-ce qu'ils vont se réattribuer des comportements qui sont propres au sport, ou est-ce qu'ils vont développer de nouveaux comportements, justement par rapport à ce phénomène ?
Merci.
Alors, il nous reste le temps d'une dernière question. Ouh, et ça y est, voilà, toutes les mains se lèvent, je l'avais prédit.
Bonjour, je suis doctorant en musicologie. Et en fait, en écoutant votre intervention sur le jeu vidéo, je me demandais si le jeu vidéo n'était pas un carrefour entre... à savoir si il devait choisir entre l'art, en fait, donc le vertige et la chance, le destin, enfin, comme sur une scène d'opéra que j'étudie, ou alors... Aller vers l'e-sport, justement la compétition, voilà. Et enfin, c'est cette question qui m'interpelle, en fait, en vous écoutant. Finalement, quelle est la dimension artistique du jeu vidéo, parce que on a le sentiment que c'est une dramaturgie, finalement, le jeu vidéo.
Ça, c'est une question complexe. Je ne sais pas, je ne vais pas avoir le temps de développer ici. Je ne pense même pas pouvoir y répondre en réalité, puisque le jeu vidéo est aux confins à la fois de l'art, de l'artisanat, du caractère spectaculaire, du divertissement et de l'industrie. C'est un objet protéiforme et extrêmement instable. Et on peut le définir par une caractéristique ou l'inscrire dans un pan. On peut avoir, pour vous donner un exemple, on peut avoir un studio de développement indépendant qui va vouloir revendiquer une forme d'art dans un objet donné. On a eu des exemples même contemporains avec Gris, par exemple, avec un style graphique ou alors une musique bien spécifique, pour se revendiquer d'une forme d'art, d'une forme de légitimité à appartenir au domaine de l'art. Le problème, c'est qu'ici, on ne prend en compte que le point de vue du développeur. Le jeu vidéo se destine systématiquement à des usagers, à des agents qui vont pouvoir modifier l'expérience en cours, l'altérer, y adjoindre des comportements. Vouloir, par exemple, un objet comme Gris, qui est un objet fondamentalement, qui se revendique comme fondamentalement artistique, rien n'empêche une joueuse ou un joueur de dire « je vais en faire un speedrun ». De l'objet qui se revendique de l'objet d'art, on passe à un objet de performance. Oui.
Attendez.
Oui, bien sûr.
Attendez.
Bah, pour l'art, enfin pour je sais pas, je pense à un opéra que j'étudie, il y a l'idée de l'interprétation du public, justement, enfin de la réception, en fait, et de l'objet que le public fait de l'œuvre, en fait. C'est le mot, en fait, c'est œuvre. Est-ce que c'est une œuvre, le jeu vidéo, quoi?
Je ne saurais pas répondre à cette question. Je ne sais pas, puisque vous avez notamment les communautés de joueurs qui sont encore aujourd'hui très méfiantes pour tout ce qui est du domaine institutionnel, que ce soit la question de l'art, la question politique, qui se méfient de ce genre de questions parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour eux, ces communautés, c'est un domaine existentiel. Et si on vient y adjoindre des questions artistiques, politiques, idéologiques, on viendrait quelque part altérer les fondements de ces communautés. Donc elles sont très méfiantes à ces égards et elles tentent généralement le rejet de ce type de comportement. J'ai un exemple très prégnant. Lorsque je rédigeais mon second mémoire, j'ai essayé de faire appel à un speedrunner qui vienne me commenter son expérience de jeu. Au final, ça ne s'est pas fait. Il avait répondu positivement pour être interviewé, pour que je lui pose des questions en termes de comportement et de la relation qu'il avait avec son support, avec le dispositif ludique. Et ça ne s'est pas fait parce que sous prétexte qu'il avait peur que sa parole soit déformée, il avait peur de ne pas pouvoir retranscrire exactement l'expérience qui était en cours. Il ne souhaitait, il ne souhaitait pas s'inscrire dans un domaine institutionnel, puisque c'est plus que des communautés de consommateurs, ce qu'ils sont, que des communautés de consommateurs, ce sont des communautés d'existence qui se forgent des espaces bien à eux et qu'ils ne veulent pas voir apparentés à des domaines préexistants.
Merci beaucoup. On va interrompre là cette première partie de la matinée. Les intervenantes sont là si vous voulez leur poser des questions. On dispose d'une quinzaine de minutes de pause et donc on reprend à 11h15. Merci à toutes et à tous.
Il y a du café et tout pour vous substanter en haut. Et sur la table, en sortant, vous aurez des numéros de l'actualité Nouvelle-Aquitaine, qui est la revue qui est éditée par notre centre. Et là, vous avez l'exemplaire sur les 30 ans de l'espace Pont-d'Espagne. Je vous invite à vous servir. Et à côté, vous avez aussi les jeux qui vont être présentés par Sophie Etienne et Terry Tina. Merci.
Voilà, les organisateurs nous proposent de relancer cette deuxième partie de la matinée, donc avec une intervention qui a été annulée, donc un petit peu plus de temps à la fois pour nos collègues qui vont s'exprimer et pour les échanges pour la suite.
Juste une petite annonce de logistique que me signale Isabelle pour l'école doctorale. Pour les doctorants, donc il y a des coupons pour le repas qui est juste à côté, au restaurant universitaire, mais il faut penser à demander, pour ceux qui ne l'ont pas pris en arrivant, le coupon à Isabelle qui est ici. Merci.
Alors, j'y pensais en écoutant les interventions auparavant. C'est vrai que parfois, sur la prononciation des noms, on francise assez facilement la prononciation des noms. Et on a beaucoup entendu le nom de Huizinga ce matin. Alors, je vais vous donner un truc de distinction académique. C'est qu'a priori, la prononciation réelle de Johann Huizinga, c'est en fait Huizinga. Ce qui, d'une part, vous permet de vous distinguer, en disant que vous êtes un chercheur qui prononce bien les choses. Et parfois, à l'international, c'est pas mal aussi, parce que, évidemment, la prononciation de Huizinga vous permet de mieux vous faire comprendre que Huizinga. Alors, je pense à ça, puisque nous avons Sophie Etienne et Terry Tyner, qui sont là avec nous pour nous présenter leur allocution « L'usage du jeu dans l'éducation populaire ». On dispose d'une bonne demi-heure pour vous laisser la parole et puis un temps d'échange avec la salle par la suite.
Bonjour, je suis ravie d'être avec vous. Je me présente rapidement, américaine de naissance. Je suis fille de deux chercheurs en biochimie, les deux docteurs qui essaient de me faire des cours magistraux autour de la table de petit déjeuner quand j'avais 5 ans. Et par la suite, j'ai choisi de partir dans les humanités en sociologie et psychologie et par la suite dans l'enseignement de langue. Et puis j'étais à la tête de plusieurs centres de langue par la suite dans l'ingénierie pédagogique. Donc depuis le début, j'ai toujours pensé que le jeu était une des meilleures façons, justement, pour faire passer les messages et pour que ça soit quelque chose que les gens ils arrivent à retenir et qu'ils font ça avec plaisir. Parce que dans le plaisir, on arrive vraiment à apprendre. Et tant que c'est quelque chose qui est imposé, souvent on fait des barrages, surtout en France, en ce qui concerne l'anglais. Donc, tout d'abord, pour se réveiller un petit peu, could you please stand up if you speak English? Génial. Alors, pour ceux qui comprennent mon accent anglais en français, est-ce que vous pouvez vous mettre debout aussi? Voilà. Ouais, c'est mon futur élève. Donc, restez debout, s'il vous plaît. Si vous êtes, donc maintenant, je vais vous demander, si vous êtes docteur en sciences, asseyez-vous. Si vous êtes...
Tu veux dire quelle
science ? En sciences. Juste en sciences. Docteur. Si vous êtes déjà docteur, asseyez-vous. Si vous êtes doctorant, asseyez-vous. Si vous êtes étudiant, asseyez-vous. Si vous êtes intéressé par le jeu, en général, en tout ce qui concerne l'apprentissage et les sciences, asseyez-vous. Ah, plus personne. Ok. Maintenant, si vous êtes dans les sciences qu'on dit douces, les sciences humaines ou les sciences de la nature, on est quand même dans les humanités numériques, est-ce que vous pouvez lever la main droite? Pour ceux qui sont dans les sciences dites dures, hein, comme mes deux parents, est-ce que vous pouvez lever la main gauche? Gardez la main droite. Donc, ceux qui sont dans les sciences dures, la main gauche. Ouais, ok, donc je vois. On a quand même une majeure partie dans les sciences douces. Vous pouvez lever les bras, descendre les bras, hein, sauf si vous avez besoin encore un peu d'exercice. Donc, maintenant, je veux. Vous voulez continuer avec les petits calisthenics? Le petit 1, 2, 3, 4. Ouais, le petit cours de réveil. Donc, j'avais dit maintenant, si vous enseignez ou animez des groupes en utilisant les jeux, tapez dans les mains. Allez, plus fort, c'est super. Si vous êtes plutôt intéressé, tapez les pieds maintenant si vous voulez utiliser davantage de jeux dans l'enseignement ou vous voulez apprendre l'usage de jeux dans l'enseignement. Oh, c'est un peu mou tout ça. Enfin, là, si vous êtes plutôt intéressé dans les jeux numériques, levez la main droite. Vous gardez la main levée. Est-ce que vous êtes intéressé dans les jeux présentiels? Levez la main gauche. Donc, on peut être... hein? Voilà. Parce que la main gauche, là, le côté pour les présentiels, donc vous pouvez baisser les bras si vous voulez, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Sophie Etienne, qui est notre fondatrice et la directrice de Didac Ressources. Elle va vous parler un petit peu des jeux et la place de jeux qu'on considère super important dans tout ce qui est l'éducation populaire. Sophie.
Merci, cher collègue Thierry. Après toutes ces statistiques intéressantes, oui, l'idée, c'est de... Bon, tout d'abord, je me présente quand même rapidement. En effet, je suis chercheuse en sciences du langage, en sciences de l'éducation. Mais c'est parce que, justement, j'ai les pieds beaucoup ancrés dans l'éducation populaire, et ça depuis très, très, très longtemps, parce que je commence à être très, très, très vieille, et que ça me semble vraiment nécessaire et important à la fois de s'appuyer sur le terrain pour faire de la recherche et à la fois de prendre du recul sur ce qu'on fait sur le terrain pour en produire. Je suis aussi autrice et en effet, j'ai fondé l'association Didac Ressources justement pour faire ce gros mot-là d'éducation populaire. Tout à l'heure, c'était Didier qui parlait de ça et puis il est intéressé aussi par... Je crois que c'est Julien qui a parlé de la politique, de l'aspect politique dans le jeu. Et c'est vrai que, également, par rapport à ce que disait Jean-Noël, on ne peut pas être que dans monodisciplinaire, fermé, et sur la subjectivité, l'objectivité, etc. Les frontières sont parfois bien floues. J'en connais quelque chose aussi en tant que... je suis référente PACA aussi de Wikimedia France, donc je travaille aussi sur les questions du sourçage et des références sur Wikimedia. Et j'avais également fondé une revue scientifique qui s'appelle Savoir et Formation. et qui était très contente justement de faire de l'interdisciplinarité. C'était sur la question de l'apprentissage des langues pour les adultes migrants. Et dans cette revue, on avait à la fois des linguistes, des didacticiens, des historiens, philosophes. Justement, c'était pas évident de pouvoir faire admettre cette revue, mais elle avait été... À l'époque, c'était l'AERS qui faisait l'évaluation. Et on avait été vraiment... considérée comme une revue scientifique. Donc la question de s'intéresser sur le partage du savoir, comment il se partage, je suis allée naturellement sur Wikipédia aussi, parce que c'est la question clé de Wikipédia. Mais voilà, c'est un petit peu... J'ai beaucoup d'autres casquettes, je ne développerai pas davantage. Voilà, aujourd'hui, c'était très rapidement pour vous présenter... l'association, mais la question c'est bien comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur le jeu pour faire de l'éducation populaire. L'association Didac Ressources, on a plusieurs axes de travail et c'est le premier qui va nous intéresser, c'est créer des outils pédagogiques, ludiques et innovants pour partager les savoirs. Et la formule c'est le partage du savoir, c'est le partage du pouvoir et donc il y a une dimension bien politique là-dedans. Ensuite, on partage des ressources et on travaille en réseau avec toutes les structures, institutions, associations qui se positionnent sur les mêmes problématiques que nous. Et puis, on propose des formations de formateurs ou d'acteurs de terrain pour une formation pour tous. Et donc, bien sûr, il y a de l'ingénierie didactique, etc. dans nos activités. Les problématiques abordées, c'est notamment l'égalité des genres, la promotion des habitants et le mal logement. Par exemple, travailler avec des habitants donc, des quartiers nord de Marseille, c'est de là où je viens, et donc Éthérie aussi. Et donc, pour essayer de faire des choses ensemble, donc, par exemple, on a créé la page Wikipédia les RIO sur Marseille avec les habitants eux-mêmes. Et l'idée, c'est que quel que soit le profil de la personne, elle a quelque chose à apporter, quelque chose à dire. Donc, à la fois prendre des informations, mais aussi en apporter. C'était une des actions qu'on a pu mener, travailler sur les droits humains. Par exemple, se dire que, ben là encore, c'était en s'appuyant sur Wikipédia, c'était de se dire que toute personne qui cherche une information, ben, quoi qu'on en dise, elle va tomber sur le premier site non publicitaire au monde, elle va tomber sur Wikipédia, et donc, autant que les pages soient bien renseignées. Et quand on habite, par exemple, au Nigeria, et qu'on cherche des informations sur ses droits, on n'en trouve pas toujours nécessairement. Et, bon, je dis ça parce que j'ai un copain nigérien qui était venu témoigner de la difficulté, par exemple, d'être homosexuel au Nigeria. Bon, c'est 14 ans de prison, c'est, voilà, quand on ne se fait pas lyncher. Donc, c'est important de pouvoir mettre des informations. Et donc, sur les droits humains, ce qu'on a fait, c'est pendant 4 jours... par exemple, de travailler avec les réfugiés et leur expliquer comment fonctionne l'interface de Wikipédia, travailler sur les droits, sur des éléments de droit. Et une fois qu'on a compris cette interface, on peut la faire dans n'importe quelle langue. Et donc, les réfugiés ont pu travailler et poster sur Wikipédia suffisamment d'informations pour qu'elles soient accessibles dans leur langue d'origine. L'axe principal, c'est l'enseignement du français aux adultes migrants, parce que moi, c'est mon cœur de métier, ma thèse portait aussi sur cette question, sur le handicap. Et puis, on a travaillé également sur le langage des quartiers populaires, Wachipédia. C'était un projet où l'idée, c'était de dire comment est-ce que la langue s'imprègne de multiples migrations dans les quartiers populaires. Elle est souvent dénigrée, mais elle est très intéressante. Et comment elle se retrouve finalement après à réintroduire la langue multiple que nous parlons tous et toutes. Et est-ce que les schèmes de construction de ces langages populaires sont les mêmes à Marseille, par exemple, que, et dans certains quartiers spécifiques de Marseille, en l'occurrence le quartier Malpassé, et dans la banlieue parisienne. Et donc, c'était une étude aussi qu'on a fait. Voilà, j'ai essayé de clarifier un petit peu la question de l'intérêt du jeu dans l'éducation populaire. C'était difficile de chercher un peu des référents. J'ai repris un petit peu les échanges et les référents qu'on peut avoir avec Christian Puren, lui qui a travaillé sur les composants de la compétence culturelle. Moi, j'ai envie de décliner ce regard sur les composantes du jeu en lien avec l'éducation populaire. Donc, il y aurait 5 composantes avec les objectifs, les actions en lien, comment on peut les illustrer, et les ingrédients de l'éducation populaire, selon moi. Donc, la coaction, coagir, c'est-à-dire se créer une culture commune. Et finalement, dans le jeu, c'est le travail en équipe, c'est le faire ensemble dans l'éducation populaire. Les actions communes cohabitent et vivre ensemble, se mettre d'accord sur les comportements acceptables, c'est les règles du jeu. C'est aussi l'intérêt général. Les interactions, agir avec les autres en fonction de ce qu'ils ou ce qu'elles sont, c'est travailler sur les représentations, sur les stéréotypes, et c'est donc ce qu'on peut retrouver dans les jeux de rôle, dans le partage des tâches, dans une activité ludique, et c'est les valeurs humanistes. Les valeurs communes, les actions transversales, reconnaître son semblable dans tout être humain, échanger à propos des valeurs partagées, se mettre d'accord sur des stratégies, former des équipes, et là c'est l'esprit civique qu'on peut retrouver. Et fonction méta, analyser le monde, mobiliser les savoirs, produire de nouvelles connaissances, interpréter, comparer, extrapoler. Et là, on parle de conscientisation au sens où, qui était utilisé par exemple par Paulo Freire quand il faisait de l'alphabétisation au Brésil. Alors la démarche qu'on a, nous, l'idée c'était de montrer un exemple de démarche qu'on fait, c'est que depuis longtemps, et ça c'était avant de construire Didac Ressources, cette association, j'ai dirigé une fédération d'organismes de formation et j'avais créé le groupe de recherche Action Formation en 2000, dans lequel on travaillait avec les formateurs des différentes AFT, donc ça, c'était des associations d'enseignement de formation pour les travailleurs immigrés. On travaillait avec les formateurs, mais aussi avec les apprenants pour construire des outils qui étaient importants pour sur le terrain. Et donc, l'idée, c'était à chaque fois de s'appuyer sur ce qui existait d'un point de vue scientifique, de ce qui existait par ailleurs, et surtout des besoins exacts du terrain pour produire quelque chose. Donc pour les personnes qui n'avaient pas été scolarisées, par exemple, on a créé la boîte à outils pour l'écrit, qui a été co-construite avec une dizaine de formateurs expérimentés dans les structures, avec les remarques des apprenants pour être remodifiés ensuite. On a créé le curriculum vitae, là c'est des formateurs à qui on demandait de plus en plus d'orienter des publics qui étaient non francophones vers des métiers en tension, sans savoir quelles étaient leurs compétences préalables, et tous ont énormément de compétences, donc c'était de mettre en avant tout ce que ces personnes savaient faire, que ce soit à la fois des compétences très formelles, professionnelles, ou que ce soit des compétences savoir jouer aux échecs, par exemple, et forcément, derrière, il y a énormément de compétences. Donc, on a créé une banque d'images et qui permettait aux personnes de pouvoir faire le tri, ça me parle, ça me parle pas, sur des thématiques et aussi par rapport à des, pas des métiers spécifiques, mais les soins à personne un peu, ou la construction, etc. On a fait aussi le droit en jeu pour permettre aux gens de s'approprier leurs droits du travail. Donc là également, on a fait Et on a fait vidéo et débat. Donc, c'est des vidéos. On était parti justement de des échanges des migrants. On leur disait qu'est-ce qui vous a étonné, choqué la première fois que vous êtes venu en France. Et donc, chacun a raconté son histoire. Ensuite, ils ont travaillé avec un scénariste. Et ils ont refait ces scénarios sous forme humoristique, des capsules vidéo assez humoristiques. Et on a travaillé à un guide d'utilisation de ces vidéos avec Christian Puren. Et c'est un outil qui est très intéressant, non pas parce que j'ai contribué à le co-créer, mais parce que permet vraiment d'échanger sur une des choses qui arrivait en premier, c'était la sécurité sociale, ça c'est important, mais aussi les questions de longueur de jupe, les questions de représentation sur qu'est-ce que c'était. Hein. Enfin, je vous engage à aller voir, les vidéos en principe sont en accès libre sur le site de Didac Ressources. Et puis là maintenant, à Didac Ressources, on crée d'autres jeux, donc on va y revenir plus en détail. On a fait un jeu avec deux jeunes sur la question de l'esprit critique, savoir décomposer les arguments fallacieux, etc. Donc ça c'est le jeu manipulation. Et puis deux autres jeux dont je vais vous parler. Le premier, c'est Sauvons la planète, Wikipédia pour tous, un jeu d'inclusion numérique qui est en construction, en co-construction. Et le tour d'Hippoly, un jeu de sensibilisation sur le mal logement. Pardon. Et donc voilà, ce qui me semble important à expliquer, c'est la démarche de co-construction. Alors en l'occurrence, pour le jeu qui concerne Wikipédia pour tous, un jeu d'inclusion numérique, il a été construit pas seulement dans une équipe restreinte, mais aussi à travers différents hackathons qu'on a pu mener. Donc on est parti du principe de Wikipédia d'ailleurs. Personne ne sait tout, tout le monde sait un petit peu. Si on mettait tout ce savoir ensemble, pourrait avancer. Et l'origine du projet, c'est qu'on faisait justement un petit atelier pour parler de son quartier dans une structure qui recevait de jeunes enfants touchés par le spectre de l'autisme. Et on se rendait compte que pour parler de son quartier, pour aller ensuite comprendre un petit peu Wikipédia et puis aller chercher des informations, il manquait souvent beaucoup d'étapes. Donc on s'est dit que ce serait vraiment intéressant d'essayer de décomposer ça. Et si Wikipédia est sur du numérique, mais de faire des phases en jeu concret, pour pouvoir décomposer toutes les étapes. Donc, l'objectif du jeu, c'est de lutter contre la fracture numérique de façon générale et de se pencher sur comment on a accès au savoir, donc l'éducation aux médias, à l'esprit critique, aux connaissances, savoir-faire, de la recherche, en quelque sorte consommer de l'information, mais de manière conscientisée, justement, vérifier ses sources. Et en termes de contribution, raconter sa propre histoire, c'est aussi sa représentativité des personnes, souvent les invisibles sur Internet. C'est maîtriser la production d'informations, partager ses connaissances et produire aussi des contenus de qualité. Et les publics, donc l'idée, c'est bien de faire des jeux pour tous et pour toutes et de ne pas dire on a un seul public. Néanmoins, pour ce jeu, on a une attention particulière pour les personnes en situation de handicap invisible. Et donc, on a proposé dans le groupe de recherche Action Formation à des personnes touchées par la dyspraxie, par l'autisme, par la dysorthographie, etc., qui nous ont rejoints. Donc on avait dans le groupe de départ des personnes en situation de handicap, mais également des formateurs, formatrices, des accompagnateurs, et puis des techniciens et dessinateurs.
Et à chaque fois, c'est des gens qui sont motivés à le faire parce qu'on fait les choses, on n'a pas de sous pour les faire. Donc, voilà. La démarche, on a d'abord mis en place ce groupe d'experts constitué, donc, je vous le disais, de différents profils. Ensuite, on a fait les premières réunions. On a travaillé aussi à recueillir des informations donc, sur les handicaps, sur ce qui se faisait sur les jeux, etc. On a élaboré des fiches de travail, que je vais vous montrer, pour pouvoir poursuivre ça. Et on a proposé plusieurs hackathons. Par exemple, aux rencontres de l'Orme à Marseille, c'est les rencontres sur le numérique, c'est Canopé qui organise ça. On a fait également des hackathons à Stockholm, à la Wikimania, donc qui réunissait plus de 1500 Wikipédiens de tous les pays, à la Wikiconvention de Bruxelles. On a récupéré des idées, c'était tout en vrac. Donc on a après retravaillé, c'est vrai, en comité restreint, et on a proposé un premier prototype. Ce prototype, c'est donc là, c'est les fiches de recueil d'informations. Par exemple, est-ce que cette activité, quel est l'objectif? L'activité, est-ce qu'elle sera en termes de recherche d'informations ou de production? Quel est l'objectif par rapport à Wikipédia de la compétence qu'on va acquérir? Les compétences qui vont être mobilisées, les idées aussi de déclinaison d'une activité, les objectifs pédagogiques, et puis sur la droite, donc l'attention aux personnes qui pourraient être en situation de handicap, donc pas mettre trop d'onglets, pas mettre trop de couleurs violentes, pas mettre trop de voilà, pas trop de règles de lecture, etc. Et voilà. Alors le prototype, ça s'appelle Sauver le monde. Et l'idée, c'est de ne pas se contenter d'appliquer les règles les unes après les autres. On a néanmoins exclu la question du hasard parce qu'il s'agit vraiment d'une progression. Et donc, on ne peut pas partir sur le hasard. Mais c'est une quête. Et pour sauver le monde, donc on va avoir différentes missions. Et pour gérer l'hétérogénéité des publics, on va avoir des missions plutôt simples à chaque fois, et des challenges pour ceux qui iraient un peu plus vite, pour qu'ils puissent quand même avancer sans être retardés par quelqu'un qui aurait besoin de plus de temps pour faire une mission. Et donc là, c'est vrai que j'aurais dû prendre les enveloppes avec moi parce que j'ai pas en mémoire tout, mais la première chose, c'est de dire bon, on va sauver la planète. Pour ça, il nous faut trouver une machine qui va nous aider à remonter le temps. Cette machine, elle est utilisée par un célèbre docteur dans une série connue. Ça s'appelle le...
De quoi ?
Le TARDIS, exactement. Voilà. Et Wikipédia, c'est le cerveau du monde. Et donc, attention, il va se passer différentes choses. Il y a, par exemple, il faut sauver des espèces qui sont en voie de disparition. Ensuite, il faut créer des pairs aussi, essayer de trouver quelles vont être les personnes qui vont vous aider à sauver la planète. Donc, vous pouvez aller chercher qui vous voulez. Madame Marie Curie avec former le couple qui vous semblerait idéal, et puis avec ces personnages, vous appuyez sur ces personnages pour remplir les différentes missions. À un moment, il y a aussi la moitié de la planète qui est habitée, donc l'hémisphère nord doit fuir dans l'hémisphère sud, comment on fait sa valise, etc., en piochant les informations sur Wikipédia. Donc c'est un jeu qui se joue à la fois sur le plateau avec l'émission sur l'ordinateur. Et c'est vrai que c'est plus un jeu qui doit se faire quand même avec un accompagnateur ou une accompagnatrice sur la question d'aider à comprendre Wikipédia à chaque fois, prendre le temps, et peut-être une mission par séance de formation, mais ça peut se jouer aussi entre personnes, individus, et entre ou dans une classe ou dans un EHPAD ou n'importe où. Voilà. Alors là, aujourd'hui, on a amené le prototype. On est assez preneuse de vos réactions, puisqu'on n'a pas encore eu le temps de l'expérimenter. Là, on a fait nos petits découpages de cartes et tout. C'est vraiment le prototype.
Par ailleurs, un autre jeu dont vous n'avez sans doute pas parlé dans cette région, sauf si vous lisez Ciné Mensuel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés depuis, c'est le Taudipoli. Donc là, c'est sur la sensibilisation au mal logement. Et ce jeu, on l'a créé à partir des immeubles effondrés de Marseille. Et il y a une femme qui était dans une manifestation et qui a dit qu'il va falloir qu'ils arrêtent de jouer avec nos vies comme on joue au Monopoly, parce que c'est exactement ça ce qui s'est passé à Marseille. Et là, c'est vrai que c'est un jeu très politique. D'ailleurs, il n'y a que Didac Ressource qui voulait accepter de le publier, parce qu'on prend des risques un peu. C'est aussi essayer d'expliquer comment ça s'articule, comment est-ce qu'on peut arriver à des situations comme ce qui s'est passé à Marseille, comment est-ce qu'on peut, en étant propriétaire d'un terrain où il y a un bidonville, se faire énormément d'argent en louant ce terrain à des gens très pauvres et comment... Voilà, on peut. Donc c'est un jeu qui permet, qui est constitué comme le Monopoly, sauf que là c'est pas les mêmes rues, que la personne qui est au centre, dont on taira le nom, mais que vous n'aurez sans doute pas reconnu, mais voilà, et qui se joue aussi vraiment comme le Monopoly. On essaye de gagner de l'argent sur les taudis, et on se rend compte de. Et bon, pour financer sa publication, on a mis notre argent à nous pour le faire. Et puis après, on a fait pour faire le premier prototype. Et ensuite, on a fait un financement participatif pour pouvoir faire la deuxième version. Donc, je passe un peu. Ah oui, non, je sais. Je vais vous montrer le plateau si ça vous intéresse. Parce que vous avez l'air de... Voilà. Il y a eu le plateau virtuel, il y a eu une tentative, il est en ligne sur Géniali, mais bon, c'est un peu compliqué. Et la personne qui a fait le premier prototype, c'est Fatih Boiroy, donc, qui était directeur de la Fondation Abbé Pierre à Marseille pendant plus de 10 ans, qui connaît vraiment cette question-là très très bien, et qui depuis très longtemps voyait d'ailleurs des drames se passer dans des immeubles où étaient logées des personnes pauvres, mais personne ne s'en préoccupait beaucoup parce que c'était par exemple dans un squat ou par exemple ça touchait les populations roms. Et dès lors que c'est des populations dont les gens n'aiment pas entendre parler, on n'en parlait pas beaucoup. Et pourtant, il y avait beaucoup d'informations déjà sur les dangers de ces immeubles dans Marseille. Et donc, il y a eu des articles de presse. Ce qui fait que, par rapport à ce jeu, au fur et à mesure qu'on joue, on veut acheter un lieu, on a l'information sur ce lieu et on a une obligation de lire l'article de presse qui concernait ce lieu, ce qui s'est passé dans ce lieu. Donc il n'y a pas que les immeubles effondrés de la rue d'Aubagne, il y a beaucoup d'autres lieux. Et sur le lien vidéo que vous trouvez sur le site de Didac Ressources, vous pouvez cliquer et avoir des vidéos aussi qui concernent les informations sur tel et tel lieu. Quand il y a un bandeau noir, c'est qu'il y a eu des morts à cause de l'insalubrité de ça. Voilà. Et donc, il me semble que ce jeu aussi est assez symptomatique de façon, pour le coup, de faire de l'éducation populaire, c'est-à-dire d'expliquer aux gens ce qui s'est passé, parce que nombreuses sont les personnes à Marseille qui n'ont pas compris. Tout le monde a été touché, il y a eu d'énormes manifestations parce que, justement, pour une fois, dans ces immeubles, il y avait en fait toute la représentation de ce qu'est Marseille. Il y avait des jeunes, il y avait des vieux, il y avait des intellectuels, il y avait des personnes pauvres. C'était vraiment des immeubles avec des populations très mixtes. Et donc là, ça a sensibilisé tout le monde. Voilà. Je vous engage tout à l'heure à regarder un peu de plus près. On peut faire Alors, par exemple, voilà, dans ce bidonville, mort dans un... Bon, c'est pas très rigolo, hein, comme jeu. C'est pas pour rire. C'est vraiment... On a fait des formations, par exemple, dans les... dans des centres de formation d'assistants sociaux, etc. Voilà, mort dans les Roms. On a rue d'Aubagne... Voilà, malgré les signaux d'alerte. Et on comprend au fur et à mesure que quand on achète un immeuble, par exemple, à 5 ou 25 000, mais que le loyer il est porté à 7 000, enfin, on a repris les proportions, et ben, ça va être très, très vite rentable, alors même que l'immeuble est complètement insalubre. Voilà, sinon, ben, je vous engage à aller, si vous le souhaitez, sur le site de Didac Ressources, où vous aurez les informations sur les différents jeux. Vous pouvez nous contacter. Vous avez aussi pas mal de ressources sur la formation des adultes migrants, parce que c'était l'objectif du départ. Voilà. Je ne sais pas du tout par rapport au temps. Très bien.
Merci beaucoup. Merci à toutes les deux pour cette intervention. On dispose d'une petite demi-heure même pour un échange et des questions de la salle. Ben, ça commence tout de suite. J'ai l'impression qu'il y a une main qui se lève là. Parfait.
Oui, ben, vraiment merci pour cette intervention là, parce que c'est vrai que le jeu est consubstantiel de l'éducation populaire depuis le début. Nous, on le voit ici aussi dans l'histoire de la maison et dans les pratiques. La recherche-action aussi, c'est tellement... C'est un parcours historique aussi dans le champ de l'éducation populaire. Alors moi, la dimension ludique de Wikipédia, moi, elle m'a toujours un peu échappé. J'adore Wikipédia, je contribue de temps en temps, on a fait des choses ici là-dessus, etc. Et là je suis très intrigué par rapport à ça, parce que vous vous servez de Wikipédia. Alors il y a Wikipédia, mais il y a aussi plein de projets qui auraient peut-être une dimension plus ludique, entre guillemets, comme Commons ou des choses comme ça. Mais, et donc, vous en servez comme support à un jeu de plateau sans jouer le jeu de la contribution, a priori, à Wikipédia, ou vous allez jusqu'à la contribution possible?
Oui, tout à fait. On va jusqu'à la contribution possible. Ben, c'est vrai qu'il existe pas mal de jeux possibles avec Wikipédia. Rien que s'amuser à cliquer tous les premiers liens bleus et constater qu'à chaque fois, vous tombez sur l'article philosophie. Et enfin, il y a plein de trucs rigolos à faire. Et en effet, c'est la contribution, elle peut en effet être juste faire une photographie et la mettre sur Wikimedia Commons, qui est un des projets Freur. Et c'est vrai que c'est peut-être pas forcément rigolo Wikipédia en soi, mais moi, depuis que je me suis intéressée de près, je trouve que c'est un outil formidable, justement pour s'appuyer, pour faire pour mener des actions d'éducation, de valorisation aussi. Parce que quand je vois les gens du... J'habitais un quartier et personne qui veut venir. C'est vraiment... D'ailleurs, c'est très pratique parce qu'on peut laisser la porte ouverte. Les gens ont tellement peur de venir dans ce quartier qu'il ne se passera rien. Et donc, il y a vraiment... les personnes, quand elles ont pu mettre une information, par exemple, là, sur les Rios, c'est un quartier où il y avait des... Donc, il y a eu des usines Metal Europe, de l'arsenic, du chlore, toutes les saloperies possibles, elles étaient dans ce quartier. Ils ont fait venir de la main-d'œuvre, mais ils n'ont pas, donc, italienne, espagnole, et puis d'Afrique du Nord, sans jamais penser à où est-ce qu'on logeait ces gens. Donc, les gens étaient dans des bidonvilles, dans d'anciens blocos. Donc, et ces personnes, elles... C'était vraiment... il y avait une solidarité, etc. Sauf qu'à un moment, maintenant, les usines ont fermé. Donc, il y a beaucoup de rancœur, beaucoup de choses comme ça. Et d'un micro-quartier à l'autre, les personnes ne se parlaient pas. Et le projet Wikipédia, c'était de dire, mais... parce que je fais partie de... Enfin, je suis vraiment sur ce quartier depuis très longtemps, et dire, mais plutôt que vous bouffez le nez, vous préférez pas qu'on fasse quelque chose ensemble, et comme je m'intéresse à Wikipédia. Et quand les gens ont commencé à porter des photos qui dataient de 1915, il y avait le viaduc en construction, etc., qu'ils ont apporté aussi des photos de classe, bien sûr qu'ils peuvent pas aller sur Wikipédia, mais c'était quand même... On a fait ce qu'on appelle un Wikitech, où on récolte tout ce que les gens ont voulu apporter, ou la première carte du comité d'intérêt de quartier, plein de choses comme ça. Il y a eu une discussion, des échanges, et puis après, bah pareil, hein, c'était, moi, les projets, je les fais parce qu'ils me plaisent, et j'ai jamais d'argent au départ. Et donc après, j'ai dit, on pourrait peut-être aller au centre de documentation du musée de l'histoire de Marseille, qui même me suivent, on prend le bus le 35, tel jour à telle heure, et hop, j'ai eu une dizaine de personnes qui sont venues, on a fait des recherches, et quand elles ont pu mettre des informations qu'elles avaient trouvées sur des bouquins qu'on ne pouvait même pas photocopier tellement ils étaient vieux, les mettre sur Internet et de voir leurs petites informations, la petite référence, ou mettre leurs petites photos de l'usine en train de se casser, ou même si c'était une petite information, et si ces personnes étaient en situation d'illettrisme et qu'elles avaient réussi quand même à mettre une information dans la plus grande encyclopédie du monde, c'est très, très, très valorisant. Et ça, je pense que c'est un outil extra pour ça. Et je n'arrête pas. On a fait d'autres projets aussi, mais qui ne sont pas ludiques. Par exemple, on fait les 100 pages Méditerranée pour réduire le fossé des genres sur Wikipédia. Il y a tellement à faire. On avait fait aussi sur... le patrimoine et matrimoine africain, parce que sur Wikipédia, il y avait tout ce qui concernait tous les continents sauf l'Afrique, donc on a proposé de faire ça. Et il y a des copines qui ont monté aussi un projet qui s'appelle Noircir Wikipédia, qui choque un peu parce que on peut avoir des dégradés de couleur ou parce qu'on n'aime pas du tout cette appellation, mais au moins c'est un projet qui bouscule et qui fait qu'on va essayer de réduire les fossés, parce que forcément c'est une encyclopédie collaborative. Et très souvent, j'avoue que moi, les premières fois où j'y allais, je me disais, mais c'est pas vrai, il n'y a que des geeks, 35 ans, masculins, un peu bedonnants, mais justement, c'est important de bousculer cette représentativité sur Wikipédia, et qu'il y a beaucoup trop de... Enfin, il y a, tant mieux, il y a beaucoup d'hommes illustres qui sont mis en valeur sur Wikipédia, et tellement peu de femmes, ou alors on dit, c'est la femme d'eux. Donc nous, on organise tous les premiers vendredis du mois une action de contribution sur Wikipédia pour contribuer sur les femmes méditerranéennes.
Et est-ce que systématiquement vous pensez à, après ces ateliers, éventuellement des adaptations pour des enfants, de jeux ou par exemple de recherche, enfin là ça pourrait être un peu chercher la femme, enfin quelque chose comme ça.
Ouais.
Est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez? Est-ce que les publics dont vous parlez sont des publics de quartier ou des publics invisibilisés? Mais est-ce que les enfants aussi, est-ce que ces jeux sont pensés pour ce public?
Ben justement, moi je trouve que, et je suis assez fière de ça, d'essayer de ne pas toujours essayer d'avoir un public défini, et que l'idée c'est de faire se rencontrer les gens. Donc par exemple, beaucoup d'ateliers où on a à la fois des vieux, des jeunes, des enfants, des gens qui viennent de quartiers populaires et des gens qui viennent de quartiers moins populaires. Et de mélanger les gens, quand on se connaît, ben on apprend à s'apprécier plutôt qu'à se bouffer le nez. Mais en effet, et mon défaut, c'est que dès que je mets la main dans un projet, ben ça en propose un autre et ça en propose un autre. Là, par exemple, je suis partie à faire des cartographies avec les habitants sur le quartier justement des Rios, en se basant sur OSM, parce que les facteurs... ils s'en sortent pas, parce que justement c'est beaucoup d'habitats autoconstruits, donc les numéros ne se suivent pas nécessairement. Ce qui était un garage est devenu une super maison, ce qui était donc et puis il y a des cités, donc les numéros sont par rapport aux cités, et donc les facteurs vu le démantèlement actuel de la Poste, les facteurs sont un peu paumés quand c'est des intérimaires et donc ils galèrent. L'idée, c'était de collaborer avec la Poste et avec les habitants pour essayer de mieux cartographier ce quartier. Et voilà, et à chaque fois, on a plein d'autres projets tout le temps.
Oui, bon, merci. Ça m'a beaucoup intéressé. C'est même quasi, j'ai envie de dire, des political games, finalement. Moi, j'aimerais savoir si vous avez déjà eu des retours d'expérience, notamment auprès des enfants autistes, par exemple. Est-ce que vous avez pu apercevoir qu'ils avaient une meilleure compréhension de leur environnement, de la recherche numérique ? Est-ce qu'il y a déjà des résultats ?
Alors, non, ce que je vous disais, c'est qu'on vient vraiment juste de le terminer, le prototype. Et donc, maintenant, on est à la phase où il faut qu'on aille l'expérimenter. Et on est preneur aussi de toutes les personnes qui auront envie de le faire. Pour l'instant, on l'a imprimé comme ça avec notre petite imprimante et on n'a pas eu le temps encore. On est vraiment à cette phase-là d'expérimentation. Il faut qu'on lance l'expérimentation. En revanche, sur le taux d'Hippoly, oui, là, on a des retours. Il a fallu qu'on en refasse encore parce qu'il y a plein de gens qui nous les ont demandés et qui trouvent que c'est très, très pédagogique, justement, qu'ils ont appris plein de choses. Ça. Mais sur celui-là, il est trop jeune encore.
Alors, ben, merci déjà. Et ben, j'ai été beaucoup marqué par Todipoli, moi. Je trouve ça génial. Je ne suis pas du tout ni de Marseille ni historien, mais je trouvais ça très bien dans un rapport aussi, parce que de loin, tout c'est. On entend parfois dans les journaux, enfin on entend pas dans les journaux, mais on voit dans les journaux, on voit à la télévision, on entend à la radio, ces événements d'insalubrité, etc. Et bon, mais ça passe, voilà, comme tout.
Ah là, c'est pas passé, hein, ça continue. Hein,
mais ça continue, voilà. Et justement, je trouvais ça bien d'un point de vue mémoriel, parce que ça montre une réalité qui reste. Et comme moi, je ne suis pas à Marseille, c'est quelque chose qui, dans ma conception, dans mon espace mental, circule, boum, paf, comme ça se passe un tremblement de terre à Haïti, boum, ça passe. C'est dramatique, mais ça, on trie les informations, malheureusement. Et donc, je trouvais ça très bien d'un point de vue aussi de voir la réalité des choses. Ça faisait une forte cartographie. Et je me disais que... est-ce qu'on vous a contacté, par exemple, pour étendre le concept du Todipoli, non pas simplement à Marseille, mais je connais un peu la Seine-Saint-Denis, par exemple en Seine-Saint-Denis, ou dans d'autres quartiers nord... quartier nord parce que c'est au nord de Paris, mais dans d'autres quartiers mis de côté comme ça et un peu abandonnés.
Oui, il y a des gens qui nous ont demandé, on a dit bah, il n'y a pas de souci, de toute façon, comme nous on a fait le plagiat du Monopoly, le plagiat du Todipoli, et puis on avait envie, mais c'est aussi, mais il faut avoir du temps, et puis c'est vrai qu'on manque cruellement de moyens, parce que quand on veut pouvoir parler, on ne peut pas avoir des subventions municipales. Donc, on peut pas. Et donc, il faut qu'on puisse trouver le temps de le faire. Mais on avait envie de faire l'antidote aussi. Quelle solution, comment est-ce qu'on peut faire? Et puis là, on a en perspective de faire un jeu sur les punaises de lit. C'est aussi un énorme fléau à Marseille. Et donc, justement, pour que les gens puissent un petit peu savoir ce qu'il y a à faire et le faire avec des associations sur place, et puis avec Emmaüs, et puis avec plein de gens. Voilà. Ça, c'est dans les perspectives. Mais oui, il y a plein d'idées, plein de choses à faire encore. Mais bienvenue, s'il y a des gens qui veulent venir participer à des jeux, expérimenter des trucs avec nous... voilà, vous ne serez pas rémunéré, malheureusement, mais vous êtes bienvenu.
Est-ce qu'il y a d'autres signes d'intervention au fond de la salle ?
Oui, bonjour et merci pour votre intervention. En fait, moi, j'avais une question. Alors, enfin, c'est pas vraiment une question, c'est plus un commentaire que m'inspire votre communication et qui concerne effectivement la question du sponsor, ce qu'on appelle le sponsor. Et effectivement, je pense que vous montrez très bien que le fait de ne pas avoir, si j'ose dire, de sponsor ou donc de donneur d'ordre donne évidemment dans l'approche de la création des jeux une liberté beaucoup plus grande. Alors c'est en particulier une thématique qui est beaucoup sur laquelle se penche un chercheur qui s'appelle Peter Perla, qui travaille sur la question du wargame, qui est par ailleurs une question sur laquelle moi-même je travaille, et qui effectivement se pose toujours la question de savoir, quand on crée un jeu, en particulier quand on veut créer des jeux qui sont des jeux d'analyse ou de compréhension du monde et de problématiques très contemporaines et très concrètes, la question de qui commande le jeu, parce qu'il arrive effectivement que des entreprises ou des communautés de communes soient les sponsors de ces jeux, le créateur du jeu est naturellement partagé entre l'envie de voir son contrat renouvelé et donc du coup évidemment de produire un jeu qui va aller évidemment dans le sens de ce que va lui demander son sponsor, et le souhait réussir à créer un jeu qui réponde, entre guillemets, véritablement à la question qui, théoriquement, est la question posée, mais qui n'est pas vraiment la question posée, dans le sens où la question posée, en fait, a également une réponse induite. Et il y a un élément, une anecdote qu'il raconte dans son livre, qui est celle de... auquel a fait face le ministère de la Défense britannique il y a maintenant une petite dizaine d'années, où il voulait créer un nouveau modèle de véhicule amphibie. Je vous passe sur les détails, mais concrètement l'idée, ça a été d'organiser une session de jeu et de confier la défense d'une vingtaine de modèles théoriques différents à des joueurs qui, chacun à leur tour, était censé la défendre comme on va défendre un projet, avec ses qualités, ses défauts. Chaque projet avait des qualités et des défauts, et parmi ces projets il y avait le projet qui avait été retenu par le ministère. Et il se trouve qu'à l'issue de la première session, en fait, à chaque fois, il y avait un tour de table et on éliminait un projet à chaque fois pour n'en garder que 4 ou 5. Le premier projet à être éliminé, ça a été celui du ministère, parce que toutes les personnes qui étaient autour de la table ont considéré qu'il était absolument aberrant, que c'était une dépense d'argent totalement délirante et globalement, il ne servait à rien. Et effectivement, donc, il y a des moyens de détourner cette question du sponsor, mais effectivement, ce sont des moyens détournés. Et votre moyen, entre guillemets, qui n'est pas un moyen détourné, c'est précisément d'être votre propre sponsor, et je trouve que c'est extrêmement intéressant.
Mais ça a été non sans mal. On a eu peur un peu parce qu'on s'est dit, c'était pas rien. Au tout départ, la première publication, c'était, je sais plus combien on a fait, puis vraiment, on essayait de le vendre au prix de ce que ça nous avait coûté. Mais c'était vraiment notre argent, nous, qu'on a mis là-dedans, même pas celui de l'association, parce qu'on n'avait pas. Et c'est vraiment ce que vous dites. L'idée de faire ça, c'est aussi parce que dans mes vies antérieures, j'ai énormément souffert de cette question-là. Parce que, justement, à la fédération AFT, je ne sais pas si vous connaissez l'AFT, c'était né dans les... il y en avait un peu partout en France, pas à Poitiers, mais... Et c'est né dans les années... en 1971, c'était... pour faire de l'alphabétisation, parce que des ouvriers avaient vu que leurs copains ouvriers qui venaient de l'autre côté de la mer ne comprenaient pas leur fiche de paye, se faisaient exploiter, etc. Donc c'était né sur cette solidarité. On fait de l'alphabétisation justement pour que les gens comprennent, puissent s'émanciper, comprendre vraiment ce qui se passe, comment ça fonctionne, etc. Et petit à petit, cette fameuse AFT, au fil du temps, il y a eu tous ces changements institutionnels. Pour ceux qui sont un petit peu, qui connaissent un petit peu, c'était le FAS. En fait, le FAS, c'était l'argent des immigrés qu'ils ne prenaient pas quand ils repartaient chez eux. Et donc, il y avait une énorme cagnotte. Peu de gens le savent, ça. Donc, c'était le FAS qui est devenu ensuite le FACIL. Et puis après... on a changé institutionnellement, et de la même manière que la question de la migration était sous l'égide du ministère du Travail et qu'elle est passée insidieusement sous l'égide du ministère de l'Intérieur. Et ça, c'est pas anodin, c'est vraiment les personnes immigrées ne sont pas nécessairement tous des délinquants. Enfin, et donc, petit à petit, on a vu les valeurs de structures comme les AFT, justement, avec des anciens fonctionnements et qui, des vieilles personnes qui faisaient partie du comité fédéral et qui n'ont pas vu tout ça, tous ces petits changements, ou comme ces petits glissements de sens où mon père... on oublie le terme d'éducation populaire, on le remplace par autre chose, on parle d'empowerment maintenant, ce qui n'est pas la même chose du tout. Et petit à petit, tous ces changements ont fait que, ben, on s'est retrouvés, nous, à avoir des projets, mais c'était le ministère de l'Intérieur qui nous finançait. Alors on avait une revue scientifique et puis on avait une revue d'interface. Et un jour, on a publié un article qui s'appelait « Permis de tuer à Gaza ». Et on a été convoqués immédiatement au ministère, tapés sur les doigts, et on n'avait pas notre libre parole. Et dans tout ce qu'on faisait, il fallait faire attention dans tous les articles. Moi, j'aime bien écrire des articles un peu qui contestent un peu des choses, où on prend position. Et là, comme j'étais passée de chargée de mission à directrice, mais vraiment, on se muselle soi-même, on n'est pas libre de sa parole. Et ça, après, je me suis dit, plus jamais. Donc, je préfère ne pas gagner un rond, mais pouvoir dire ce que je pense, ce qui me semble important.
Une autre question dans la salle. Alors, peut-être j'en profite, il y a un petit créneau. Je reviens sur sauver la planète avec Wikipédia. C'est bien ça, le sauver la planète avec Wikipédia. J'avais une question. Vous avez dit que vous aviez évacué la question de l'aléa dans la formule du jeu, si je comprends bien. Et enfin, j'ai une double question. La première, c'est que on voit qu'il y a une dimension politique très affirmée. Parfois même, et je me demande si Todipoli est finalement un jeu pour être... jouer ou finalement un jeu pour plutôt interpeller à travers la forme du jeu, parce qu'on comprend bien que c'est aussi jouer avec des vies, et c'est le scandale de ce qui s'est passé sur l'immobilier à Marseille. Sur sauver la planète, première chose, est-ce qu'il y a une forme de rejouabilité de Wikipédia pour tous, pardon, voilà, Wikipédia pour tous. On comprend qu'il y a des éléments un peu scriptés. Et puis sur cette expression « sauver la planète », c'est vrai que l'urgence écologique, l'urgence climatique appelle parfois à une certaine forme de radicalité dans les solutions proposées. On voit que l'expression d'anthropocène commence à être remplacée par capitalocène, en se disant que la planète va nous survivre, en fait. C'est peut-être ça, parce qu'elle est dans une échelle de temps qui va lui permettre de se remettre sur pied, mais nous, probablement, qu'on aura disparu d'ici là. Et est-ce que le jeu amène d'une certaine façon à ces ouvertures-là ou à ces remises en cause de certains paradigmes? C'est une question que j'avais en tête.
Oui, tout à fait. Mais quand au départ, on avait vraiment, enfin, tout le travail qui a été fait avec les Wikipédiens, avec les gens, on était sur du très formel et puis on s'est dit, oui, mais c'est bien formel tout ça, mais on va avancer, mais où elle est la dimension ludique? Et avec Thierry, on s'est dit aussi qu'il faudrait ramener un peu du jeu dans tout ça. Et on avait l'idée de faire on s'est dit qu'il faudrait qu'il y ait une quête. Et donc, elle est la quête la plus importante à l'heure actuelle. C'est sans doute ça. Et puis, en détournant justement les différentes missions, justement... Ben, c'est un petit clin d'œil de dire, par exemple, qu'on va fuir l'hémisphère nord pour aller se réfugier dans le sud, et que voilà, c'est plein de petits clins d'œil comme ça. Mais après, on peut imaginer de le décliner. Là, pour l'instant, vous allez regarder un petit peu le prototype. Il faudra le retravailler parce que, en effet, les missions, elles sont écrites et c'est sur telle chose. Mais ça se renouvelle à chaque fois, au sens où, par exemple, on peut choisir les personnages aussi qui vont nous aider. Donc, si on prend chaque fois quelqu'un si on prend Sankara avec je ne sais pas qui, et on va essayer de faire quelque chose. Et donc, en fonction, on va pouvoir s'orienter autrement en fonction des personnages qu'on aura choisis. Donc, voilà. Mais je pense c'est vraiment prototype. Il n'est pas fini. Et je pense qu'il est perfectible. Et on est preneuse de toutes les suggestions. D'ailleurs, il y a des petites cartes blanches à côté du jeu, un stylo, si vous avez des idées, des questions, des choses. Et puis, il y a une feuille pour vous nous laisser les coordonnées des personnes qui seraient intéressées pour le taudis poli, par exemple.
Il reste encore un peu de temps, moi, qu'on le consacre peut-être pour aller expérimenter les prototypes. Ça peut être une idée, hein, puisqu'il est midi 20. Écoutez, merci pour ces interventions et pour la participation de la salle. On en conclut ici pour cette matinée. On se retrouve donc à 14h avec Vincent Berry qui assurera la présidence de la session de l'après-midi, usage pédagogique sérieux et thérapeutique du jeu à 14h après la pause méridienne. Merci à toutes et à tous.
Merci beaucoup. Et si vous voulez laisser vos affaires, c'est possible, c'est fermé à clé jusqu'à la reprise.